Eh ben Thomas, je te prie, tu es... Ah, tu as pas le texte ! Mais est-ce que tu peux le faire de mémoire ?
Vous êtes sur Radio FMR, nous sommes sur 89.1 MHz. Le programme de l'émission des conneries, vous avez du sport en direct des vestiaires et de l'infirmerie à partir de 13h à 15h en Marfarail. Et tout de suite, c'est le magazine à peu près culturel que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Bah tu t'es planté de jingle, on parle d'un film avant l'autre film asiatique.
Ouais ouais. C'est bien ce qui me semblait.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, pardon, d'accord, désolé.
Non, mais c'est bien,
je vais chercher le fond.
C'est pas comme si c'est toi qui faisais le conducteur, mais bon, c'est pas grave.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec. Du sport, Ultimatum, Dastage et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, on se remet en place puisque donc nous avons été chaleureusement débordés, si je puis dire, par nos amis de T'inquiète l'émission. Mais quand on parle de débordement, je vais vous dire, retenez-vous parce que ça va éjaculer encore plus dans ta face
ouais.
Tout à l'heure. Puisque c'est un spécial Tue l'amour. Donc pour un Tue l'amour, on a pris le film le plus ignoble et insupportable qui puisse sortir, qui parle d'amour. On a pris le spécialiste de l'amour façon pénétration en bande dessinée pour une histoire absolument ignoble et infecte d'inceste. On va parler aussi de football et
de baston.
Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si on va en rajouter encore. Ça fait déjà quand
ouais.
même peut-être un petit peu beaucoup. Tout ça pour dire que, bon, voilà, quand même, on remercie, une fois de plus, nos amis tendres et douces et adorables, petites amies, hein, qui nous supportent toute l'année. C'est vrai que on n'est peut-être pas des enfants de cœur, mais quand même, elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'on soit à peu près calme à l'antenne. Voilà. Un petit peu de douceur. Allez, spéciale dédicace pour ces dames, que de la douceur, que de la gentillesse, que de la beauté. Vous allez voir, c'est du soft et de la poésie. Et puis voilà.
J'aime tes fosses nasales, tes conduits auditifs, ta cavité buccale, ton tube digestif. Je t'aime, c'est vrai, par tous les trous, mais s'il en fallait choisir quand je chanterais tout comme un fou, moi j'aime ton vagin. J'aime tes amygdales, la sueur de tes tifs, tes explosions anales, les poils de ton gros pif. Je t'aime, c'est vrai, par tous les trous, mais s'il en fallait choisir quand je chanterais tout comme un fou, moi j'aime ton vagin. J'aime tes vieilles sandales, tes mamelons chétifs, ta maladie mentale, ton goût du subjonctif. Je t'aime, c'est vrai, par tous les trous, mais s'il en fallait choisir quand je chanterai tout comme un fou, moi j'aime ton vagin.
Normalement, ceci devrait provoquer un tollé général.
Allez, tollé général!
Avec le cerveau croate, les fourmis croantes. Avec le cerveau croate, les fourmis micro-ondes, le chien qui aboie.
C'était extrait des SNUL, bien entendu. Si vous connaissez des nuls qui passaient sur Canal en France, eh ben, sachez que, exactement à la même époque, dans Nulle part ailleurs, mais en Belgique, pendant la pause publicitaire, eh ben, passait donc cette bande du Ruberlu, Trublion et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, ces allumés des SNUL, qui, en fait, ben, on retrouve dedans du beau monde. Et ce n'est pas le sujet du jour. Non, le sujet du jour est un spécial Tue l'amour. On va commencer le temps que je termine mon câblage le psychopathe numéro 206. C'est le numéro donc de février, celui qui vient d'arriver. C'est un spécial ivrogne. Alors si vous voulez une bonne raison pour taper votre femme, pour violer des lycéennes, trucs comme ça, et ben il y a rien de tel que l'ivrognerie, si je puis dire. Et oui, boire nuit gravement pour la santé. En tout cas, c'est absolument infect, ignoble et tout ce que vous voulez. Et ça va même jusque dans les pages centrales. Un mini-album de Jurg. Donc on va pas revenir en fait sur, je vais dire, les vertus non curatives de l'alcool et catastrophiques en société. Mais en tout cas, le psychopathe le fait, je veux dire, avec beaucoup de finesse, comme d'hab. La couverture est infecte, c'est tout ce que vous voulez. Les ivrognes, donc le psychopathe numéro 206, qui est arrivé en kiosque depuis déjà une bonne semaine. Thomas, lui, il a trouvé le... Comment dire, l'absolu, le nirvana, le... On a touché le fond, je crois. Attends, excuse-moi, j'ai oublié de te mettre, voilà. Et j'ai oublié de trouver la musique de circonstance, le fond. Obligé. C'est quand ça veut, d'ailleurs, lecteur, voilà. Je t'en prie, Thomas, vas-y.
Donc là, je parle du truc dont je viens de te parler, là.
Oui, tout à fait.
D'accord, donc à l'occasion de la sortie en salle de Banlieue 13 Ultimatum de Patrick Alessandrin, donc Luc Besson était invité à l'Hebdo Cinéma, à l'émission de Canal+, présentée.
Il est invité, puisque en fait c'était à 11h45 tout à l'heure, juste avant notre programme, voilà. Puisqu'on suit Canal+, juste avant qu'on suive l'émission. On n'écoute pas l'émission d'avant, c'est de la merde. Non, on n'était pas dedans, hein, absolument voilà, pas.
Donc il est invité par Daphné Roulier, okay, donc oui. Dans l'Hebdo Cinéma de Canal+, et Luc Besson fait une sortie contre le téléchargement illégal de films, mais pas comme habituellement contre les internautes, mais ils pointent plutôt les acteurs économiques,
les industries,
français,
voilà,
ayant un intérêt financier à faire perdurer le système, et accusent certains hébergeurs comme Google et Free d'héberger des sites de téléchargement.
Enfin, là, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il dit Free héberge une boîte qui est spécialisée. Alors, on va pas dire le nom, on va pas dire que c'est B-Movie, qui est donc un site canadien qui propose en stream des films.
C'est pas B-Movie, hein.
Voilà. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait la pub, finalement. À mon avis, c'est une pub monstrueuse. C'était exactement ce qu'il fallait pas faire. En disant que c'est Free qui l'héberge. Non, ils font que du routing. Et comme quoi, Google leur fait faire du fric, puisqu'ils hébergent c'est eux qui servent de régie publicitaire.
Oui, voilà. Ils parlent aussi des annonceurs qui mettent de la pub sur ce genre de site et qui Luc Besson parle d'élargir les
sanctions. Il parlait que Prime Minister en profitait très largement. Prime Minister, je rappelle que c'est un site de vente en ligne de CD et de DVD. Donc Luc n'est pas une contradiction près.
Voilà. Et il finit par dire qu'au contraire des Américains qui auraient bien compris que le téléchargement illégal contribue à tuer le cinéma, les Français, eux, restent des gros porcs, car ils restent les plus grands pirateurs du monde, loin devant les Chinois et les Américains. Donc.
Mais bien sûr, on va rappeler quand même une chose, c'est qu'en ce moment, on se discute la loi Hadopi. Et l'une des choses qui est bien pratique quand on parle de téléchargement, de pillage de l'industrie culturelle ou de terrorisme, c'est qu'on peut réduire les libertés individuelles. Et c'est justement ce que fait la loi Hadopi. Alors, Luc, tu es gentil, mais réduire les libertés individuelles... pour que tu puisses continuer à faire beaucoup d'argent avec tes films, qui sont des œuvres d'art, on ne va pas te le reprocher.
Avec Banlieue 13, 1, 2 et 3.
Voilà, ça n'est pas trop notre tasse de thé. Nous, on n'est pas franchement des pirates, voire même pas du tout. Ça, on ne le recommande pas, d'ailleurs, personnellement. Mais comment dire, il y a une chose sur laquelle on n'est absolument pas d'accord. C'est réduire les libertés individuelles. Donc, Luc, non seulement t'as tout faux dans ta démonstration, et ça, je crois que les gens de PC Impact l'ont très très bien démontré en détruisant chacun de tes arguments les uns après les autres. Mais en plus, eh ben, on peut dire que oui, tu participes à une certaine diversité, mais c'est pas celle qui nous intéresse forcément. Voilà. Allez, hop, zoupon. On va pas te faire de la pub non plus. Quand même, lors du dernier festival d'Angoulême, nous avons eu le plaisir de rencontrer, comme d'habitude, des auteurs exceptionnels, des auteurs magnifiques, des auteurs auxquels on ne pense pas forcément qu'on allait pouvoir toucher du doigt leur sainteté et tout ça. Et ben là, ça a été Milo Manara. Milo Manara, est-ce que quelqu'un de l'émission d'avant peut descendre ? On va prendre quelqu'un au hasard. Non, non, ils sont pas là, ils sont déjà partis.
Ils sont partis, oui.
Ah, dommage. En fait, je suis sûr, hein, j'en suis sûr à 100%, mais si on pose la question à un puceau quelconque, un garçon post-pubère, hein, pas forcément puceau, si on lui demande ce qu'a dessiné Milo Manara, eh ben, il va vous citer...
Le parfum de l'invisible.
Le déclic. Candide Camera, Kamasutra, Le Piège, Piranèse, la planète prison, et Gulliveriana, s'il a la collection complète. Bref, comment dire? Il vient de citer exactement une petite moitié de l'œuvre, quand même, de Milo Manara. Il faut expliquer que on a chroniqué, juste avant de partir à Angoulême, Borgia, dont le troisième tome s'appelle Les Flammes du Bûcher, qui est sorti chez Drugstore, sur un scénario d'Alejandro Jodorowsky. Et oui, d'accord. Milo Manara est un dessinateur qui sait parfaitement rendre des formes de nu, principalement féminin. Lui qui a commencé comme assistant d'un sculpteur. Pourtant, ce dessinateur extrêmement talentueux sait aussi illustrer les décors et les costumes. Le drapé tout à l'heure, vous en aurez un bel exemple pendant l'interview. Il a ainsi fait 5 tomes de l'histoire de France en bande dessinée. Il a fait dessiner aussi Giuseppe Bergman. Il a dessiné 4 doigts, c'est un western. Il a aussi eu des scénaristes prestigieux comme Hugo Pratt sur l'été indien El Gocho, Federico Fellini, avec qui il a beaucoup travaillé pour Voyage à Touloum, ou Le Voyage de G. Mastorna. Et sa collaboration avec Alejandro Jodorowsky, qui quand même le scénariste de la Casemeta Baron, de Lama et plein d'autres bandes dessinées, avait tout pour nous intriguer. Et est pourtant le croisement logique entre les deux carrières de Milo Manara. L'histoire de la famille des Borgia, c'est celle qui a amené à être le phare de la civilisation chrétienne, reconnue pour son intelligence, sa vertu, sa foi. Et qui a donné deux papes à la chrétienté. Alfonso Borgia, intronisé pape Calixte III, appelle son neveu Rodrigo Borgia et le nomme cardinal. Cardinal Alfonso se marie et aura 4 enfants. Oui. Et malgré cela, il devient pape Alexandre VI, chef de l'Église, représentant de Dieu, de Jésus sur terre, en ce bas monde, et les voies de Dieu étant impénétrables. Et bien, de ses enfants, une fille qu'il chérit plus que tout, puisqu'il aura des relations incestueuses avec elle, avec son frère et avec une de ses cousines, s'il vous plaît. Chouette famille, bref, Jodorowsky, que l'on connaît plutôt comme scénariste de fantasy, de science-fiction, voire réalisateur de cinéma avec Santa Sangre et...
El Topo.
Attends, la Montagne Sacrée, voilà, ce que j'allais oublier, merci
surtout,
du sport.
Surtout.
Surtout, exactement. Se donne ici à cœur joie dans une histoire, ce qu'on appelle en costume, c'est-à-dire c'est la grande histoire, dans une Italie décadente, mais éternelle pour César, dans une série passionnante, dans un domaine qu'il adore, les dynasties dépravées. Milo Manara, nous l'avons rencontré donc en janvier dernier, en Angoulême, et c'est donc autour de Borgia.
Bonjour.
La première chose, c'est bien évidemment, c'est que vous avez deux garçons qui sont complètement excités à vous rencontrer. Donc on va faire preuve de respect en disant à chaque fois « maître ». Sinon, je pense qu'on ira se faire maître, si ça vous gêne.
Oui, dans certains côtés, oui, parce que ça veut dire que je suis vraiment âgé. Donc... c'est la vérité, oui.
La première question est relativement bateau, je vais dire, mais comment est venue cette collaboration avec Alejandro Jodorowsky ?
Dans la façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'il a proposé, mais pas proposé directement à moi de faire le Borgia, mais il a proposé à l'éditeur, c'était Alba Michel à l'époque. Et donc, pour moi, c'était un propos enthousiasmant. Et lui, il avait déjà travaillé sur les Borgia, il avait fait une pièce théâtrale aussi sur les Borgia. Donc il connaît très bien la matière, et c'est une histoire à laquelle il tient beaucoup. Et pour moi, c'est surtout une vraie admiration, une vénération pour les scénaristes, mais aussi pour l'époque, pour la Renaissance. Et donc, j'ai profité vraiment avec enthousiasme de faire une histoire sur la Renaissance, soit italienne, soit européenne, parce qu'il y a aussi un côté européen dans l'histoire, comme les Borgia, il était espagnol, et il y a les rois de France, il y a beaucoup de... Justement, il y a un peu l'impression que soit aussi la naissance d'une certaine Europe dans l'histoire Borgia. Et aussi de la naissance d'une certaine idée de la politique, d'une certaine idée de la morale. Oui, il avait les conseillers de Borgia, c'était Machiavelli. C'est encore aujourd'hui, c'est considéré comme la tête pensante de la politique en général. Donc c'est vrai que la naissance de la politique, d'un certain cynisme politique, de la réelle politique, comme on dit, il est né dans le pape Rodrigo Borgia a été élu d'une certaine façon élu pape dans les 1492, que c'est la même année de la découverte de l'Amérique.
Mais c'est aussi la même année où les morts ont été rejetés hors d'Espagne.
Oui. En plus, c'est l'année où, conventionnellement, on fait terminer le Moyen-Âge et on fait commencer l'ère moderne. Et donc, c'est vraiment un moment crucial, on dit crucial. Voilà. Et donc, il y a beaucoup plus que l'érotisme, je veux dire. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes là.
Pourquoi les Borgia ? Donc, est-ce que c'est à cause de l'Italie du XVIe siècle ou à cause des frasques qui feraient fantasmer n'importe quelle presse people maintenant ?
Oui, c'est vrai que si on considère que 5 siècles après, encore les noms Borgia, ou les mots même Borgia, fait fantasmer comme ça, ça veut dire qu'ils sont été vraiment, vraiment puissants.
Les Borgia vont tellement loin dans l'inceste, dans le meurtre, et la BD n'est jamais dans le glauque. Est-ce que finalement, Borgia, ce n'est pas une comédie ?
Donc, la définition de comédie, en général, c'est un conte qui termine bien. Alors que la tragédie, c'est un conte qui termine mal. En général, c'est ça la distinction. Je ne sais pas si l'histoire Borgia termine bien ou mal. Bon, il termine mal pour eux, bien sûr, mais je ne sais pas s'il termine mal pour l'humanité. Je crois qu'enfin, qu'il ne soit pas encore terminé. C'est-à-dire que ce qu'ils ont inventé, c'est la loi, la double loi, la loi pour les puissants et la loi pour les autres, la double morale, morale pour les puissants, morale pour les autres, c'est pas terminé encore. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, les puissants ont une loi et une morale à lui et que c'est pas la même que les autres. Alors que je crois qu'il faut le dire, que l'Église s'est beaucoup changée. Il faut le dire.
Alors ça fait plusieurs thèmes en une fois. Donc puisqu'on va commencer sur la morale, est-ce que le Borgia actuel, ce serait plus Nicolas Sarkozy ou Silvio Berlusconi ?
Comme je suis italien, je ne me permets pas de juger M. Sarkozy, donc je réponds à Silvio Berlusconi.
Ce qui est étonnant, c'est que finalement, il n'y a rien de contradictoire entre le sacré et le sensuel. Et en même temps, il y a vraiment le plus puissant aphrodisiaque qui fait tomber toutes les filles, finalement, c'est le pouvoir politique. C'est un peu ça qu'on peut y retirer et qu'on peut sentir dans cette série.
Absolument, je suis tout à fait d'accord. Si on ne veut pas parler ni de Berlusconi ni de M. Sarkozy, on peut parler du président Clinton, par exemple. On a les preuves de ça, oui. C'est comme ça qu'il marche.
Il est très bon musicien aussi de ce côté-là. Est-ce que finalement, si on aurait pris aussi par un autre Italien connu pour ses frasques, est-ce que Caligula aurait été une alternative intéressante à développer comme personnage ?
Ah, Caligula, l'empereur. En effet, quand on a fait deux histoires avec Hugo Pratt, et on avait un programme en troisième. Que c'était l'histoire d'un prisonnier, un guerrier celtique dans la Rome impériale. Parce que Hugo Pratt, il a toujours aimé raconter les rencontres de civilisations, comme il l'a fait dans l'été indien, comme il l'a fait dans les gauchos, et comme il l'a fait aussi, surtout, dans son corto maltese. Et donc, il m'avait proposé cette histoire, beaucoup avant les films Les Gladiateurs, bien sûr. Alors, ce guerrier est devenu un gladiateur et il rencontre des civilisations entre les Celtiques et les Romains. Et je crois qu'alors on aurait eu la possibilité de voir Caligula au travail. Alors, Caligula, il a élu au Sénat son cheval, ça on sait. En Italie, c'est passé. Pas la même chose, mais donc il n'avait pas quatre pattes, les sénateurs italiens. Parfois on a l'impression quand même qu'on aurait préféré un cheval.
Avec les Borgia, vous décrivez les premiers parrains de l'histoire. Est-ce que c'est parce que Scorsese, il est vraiment trop religieux, il n'aurait pas pu le faire?
Alors, je sais que Jodorowsky a défini la famille Borgia comme une famille mafieuse, mais je crois qu'il y a quand même une différence entre la mafia et Borgia. C'est-à-dire que la mafia, c'est un contre-pouvoir qui combat le pouvoir de l'État, qui lutte contre la loi, contre le pouvoir de l'État. Alors que les Borgia, il était lui l'État. Donc, ce n'était pas un contre-pouvoir, mais c'était. Les contre-pouvoirs et les pouvoirs légaux étaient tous les deux dans les mêmes personnes. Il utilisait bien sûr les méthodes criminelles de la mafia, mais il ne faut pas oublier qu'il était lui-même l'État. Donc, ce n'était pas un lutte contre l'État. Et c'est ça, peut-être, la chose plus étonnante d'avoir. Une figure institutionnelle comme ça qui utilise les mêmes façons de gouverner que la mafia. Alors ça, c'est vraiment surprenant.
Aucun historien n'est arrivé à réhabiliter la famille des Borgia. Alors, est-ce que vous, en dessinant et en collaborant avec Jodorowsky, vous leur avez trouvé des circonstances atténuantes?
Mais il y a beaucoup de versions différentes de l'histoire de Borgia. Il y a un écrivain en Italie qui s'appelle Maria Bellonci qui a écrit beaucoup de livres sur les Borgia. Alors parfois il y a des auteurs qui ont la tendance à réévaluer, à récupérer par exemple la figure de Lucrèce Borgia. En disant que c'était un fils tout à fait victime de l'avidité de son père, qui l'a donné en mariage avec des princes comme ça pour lier des alliances. Après, il coupait l'alliance, il coupait le mariage, il pensait à un autre mariage, etc. Et qu'elle, elle était justement un fils obéissant comme ça. Et il y a des autres, au contraire, qui pensent que Lucrèce, c'était elle-même. bon, une fille mauvaise qui avait même elle des initiatives comme ça. Moi, j'ai l'habitude de ne juger jamais les scénarios et de dessiner exactement tout ça qui est écrit dans les scénarios. Donc, si Jodorowsky a préféré raconter cette version, sa version, comme je sais qu'il connaît très bien la matière quand même, je fais lui le maximum de confiance et je dessine exactement tout ça qu'il a écrit. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a une révolution de Borgia, quand même. J'ai l'impression qu'il y a un jugement plutôt sévère sur le passé de l'Église, etc. Autant que juif, Jodorowsky a un certain regard sur l'Église catholique qui peut-être qu'un catholique il n'a pas. Et donc c'est bien qu'il y a aussi une voix qui raconte dans son point de vue l'histoire comme ça. Après tout, la majorité des choses qui sont racontées sont des choses vraiment passées.
Et on se met un peu à votre place et on sent quand même que vous avez dû prendre vachement de plaisir à plonger dans le côté obscur de cette famille quand même, hein, à dessiner plutôt que si c'était plutôt un portrait en demi-teinte. Là, ça va vraiment dans l'obscur et on sent que vous vous êtes fait plaisir aussi.
Oui, il faut dire que quand je vois que l'histoire devient de plus en plus cruelle, violente, etc., alors moi, j'essaie de faire le dessin de plus en plus doux pour balancer un peu la situation. Je dessine tout ce qu'il a écrit, mais je préfère de le dessiner d'une façon de plus en plus délicate, etc. Pour ne charger pas trop la côté frappant, choquant. Enfin. Donc c'est ma formule de balancer un peu la violence de Jodorowsky.
Alors, finalement, en conclusion, ce qui manque à tous les pornos, c'est une bonne histoire.
Oui, c'est vrai que les pornos, en général, sont des histoires où il y a quelqu'un qui parfois fait une douche. Alors, mais oui, c'est peut-être qu'il y a un côté porno aussi, mais dans ce cas, l'érotisme, le sexe, la violence, c'est une chose vraiment justifiée. Dans la mesure où sont des choses vraiment passées comme ça. Donc, et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup des autres choses. Il y a vraiment la naissance de la politique moderne. Donc, c'est une histoire, j'espère, qui ne soit pas lue seulement comme une histoire érotique. Voilà, j'espère qu'il y a l'envie de voir aussi ça qu'il y a d'autres.
C'est ça qui est amusant, c'est que finalement on se passionne à l'histoire au départ. N'importe qui s'y passionnerait uniquement pour les fesses et pour la partie de votre œuvre la plus friponne, alors qu'en fait c'est une série qui est très profonde, qui est extrêmement intéressante et là-dessus on apprend énormément de choses, même pour l'ère actuelle.
Ah oui, mais je suis très content de ça, parce que comme il y a beaucoup de documentation sur l'époque, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de fresques, il y a beaucoup d'architecture, donc pour moi c'était une recherche très passionnante, pas vraiment difficile, parce que le Moyen-Âge c'était vraiment plus difficile de trouver les images, ça. Mais sur la Renaissance... À part certains changements qu'il y a, par exemple, dans la Chapelle Sistine, il n'y avait pas encore les fresques de Michel-Ange. La basilique de Saint-Pierre, ce n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se peut plonger pour vraiment faire une immersion dans l'univers de la Renaissance. Donc, pour moi, c'était vraiment passionnant de faire ça, de faire la recherche, de vivre quoi dans les 1492.
Surtout que c'est le pape qui va partager le monde, mais ça, peut-être, c'est dans un tome suivant. En 2006, Marvel avait annoncé que vous collaboriez avec Chris Claremont pour faire Woman of the X-Men. Et qu'est devenue cette histoire ?
Je suis en train de la dessiner maintenant. Ah, donc, et quand j'ai terminé le troisième, entre le troisième et le quatrième Borgia, je suis en train de dessiner, je suis presque à moitié maintenant. Je dois terminer pour mars, avril, avant de commencer le quatrième.
C'est un autre type de drapé quand même, hein, les capes en spandex.
Alors, c'est une chose très très difficile. Et j'ai commencé justement comme défi. C'était beaucoup des années que j'avais le scénario dans mon tiroir et je n'avais pas le courage de le commencer. Alors j'ai trouvé le courage, même pour moi, détacher un peu du Borgia. Et comme j'ai prévu, c'était vraiment difficile. Même parce que moi, j'ai l'habitude de dessiner sur un format beaucoup plus grand. Donc là, c'est Marvel qui donne les papiers, comme DC Comics, même, c'est un format petit pour moi. Et aussi, il y a une mentalité, il y a un univers qu'il faut... Il faut faire semblant de croire dans ça qui a raconté, qui a écrit. Et pour un Européen, je crois que ce soit plus difficile que pour un Américain. Enfin. Mais comme Jean Giraud Mébius a dessiné... Silver Surf, alors je dis bon, moi je dois dessiner X-Men, parce que je crois qu'un dessinateur de bande dessinée ne peut pas soit considéré un vrai dessinateur de bande dessinée s'il n'a pas dessiné les super-héros américains une fois. Donc oui, je suis convaincu de ça, et donc en Italie on dit stringo i denti, bon, je ne trouve pas les mots pour les mêmes choses en français. Quand même, je tiens la position et je veux arriver jusqu'au bout de cette histoire.
Merci beaucoup, Milo Manara. Merci de cet entretien.
Merci à vous. Merci à vous.
Et merci beaucoup, Grazimil et Maestro. Sinon, on ira se faire mettre.
Et Manara tient la position.
Voilà, vous en retenez aussi donc que le drapé de X-Men est beaucoup plus compliqué que le drapé en toge, donc peut-être que finalement il va faire des super-héros nus, ce serait quand même largement plus simple. Il n'y a pas eu que ça, c'est-à-dire, je sais pas si c'est vrai que d'habitude on a quelqu'un qui fait les photos et tout ça pour immortaliser l'événement, et puis aussi parce qu'on fait les reprises de l'interview sur le site actuabd.com pour faire cette interview. Et en fait, pendant qu'on préparait l'interview auparavant, il y a une journaliste qui nous a abordé et qui est en fait débarquée littéralement sur le festival d'Angoulême. Et en fait, c'est une journaliste chinoise d'un magazine culturel, un magazine de mode, d'art de vivre.
Qui était en France pour couvrir les défilés à Paris.
Et qui en a profité donc pour faire pendant une journée Angoulême et nous a demandé à nous suivre pendant l'interview. Et on lui a dit, non mais on lui a pas dit quoi que ce qu'était exactement Manara. Je pense que ça a été un petit peu la surprise.
Oui, on lui a fait découvrir l'album en attendant que...
Elle est repartie avec.
en attendant que l'interview précédente se finisse.
Voilà, et du coup, elle a fait plein d'interviews, donc on va peut-être la créditer.
Il s'agissait de Sophie Guo Hong, qui est donc rédactrice en chef de ce fameux magazine dont tu parlais. Et ça a été une très bonne expérience pour tout le monde, je pense.
Voilà.
Qui nous a fait l'amabilité de couvrir avec son appareil photo l'interview et que nous utiliserons justement pour la retranscription sur actuabd.com.
En tout cas, on la remercie et ces échanges de bons procédés, puisque normalement cette interview devrait être pigée et traduite en chinois pour ceux qui le lisent. Voilà, ça fera plaisir à Benjamin, tiens, Benjamin et Jidi. Qui peut-être le lisent et ils sont abonnés. Milo Manara, donc le tome 3 de Borgia s'appelle Les Femmes du Bûcher, c'est sorti chez Drugstore, c'est scénarisé par Alejandro Jodorowsky. A priori, il y a au moins un quatrième tome.
Pas a priori, c'est la série finie en 4 tomes.
Voilà, et puis plein d'autres choses. En attendant, on va vous faire découvrir le dernier chanteur à love d'amour que nous avons décidé d'adorer dans cette émission. Et juste après, je pense qu'on va parler de trucs tout aussi sensuels et adorables et super, parce qu'après tout, on parle bien des femmes de footballeurs. Ah merde, j'en ai déjà trop dit. En attendant donc... La nouveauté musicale cette semaine, c'est
Giovanni, sèmeront les graines de l'amour.
Quand tu partiras, je t'aimerai. Quand tu m'aimeras, je partirai. Et toi et moi en tournerons. Mais un jour tu verras, on sèmeront, sèmeront. Sèmeront. Toi et moi, sèmeront.
Voilà, spécial big up à nos ex-collègues. Giovanni est joué par non, voilà, on ne sait
c'est
pas.
Giovanni.
C'est Giovanni, voilà. C'est une chanson, je tiens à signaler, c'est une chanson d'amour qui est dédiée à mince, comment elle s'appelait l'autre.
Qui tu parles
La chanteuse là qui a été virée.
Papillon.
Oui, c'est ça.
C'est Cindy Sander.
Voilà, je l'avais complètement oublié puisque effectivement c'est un poème d'amour pour elle. JB vient d'arriver et va prendre le temps peut-être de se dessaper proprement et tout. Voilà, pendant que du sport pour ce spécial.
Saint-Valentin.
Tu l'amour. Va parler de SoFoot bien sûr.
D'accord.
Duce.
Oui.
SoFoot.
Maintenant là.
Ben oui.
Oh, merde.
Pas dans ton cul maintenant.
Pourquoi SoFoot maintenant?
Bon allez.
Alors le nouveau SoFoot du mois de février avec l'homme qui a dynamité la défense française mercredi
Léo
dernier.
Léo Messi, l'homme qui fait ce
fils de
ce,
Dieu.
L'homme qui fait se toucher tous les commentateurs. Ah oh ouais Messi, Messi, ouais c'est trop fort.
Ah ouais. Et où il déclare, alors c'est un entretien, alors les mecs de SoFoot disent que bon bah lui déjà pour le faire causer, on y va en interview, tout le bordel et tout, généralement des press junkets, c'est-à-dire que t'as 30 journalistes et tout, puis le mec il cause 10 minutes et puis après casse-toi.
Ciao, bye bye.
Alors que là, c'est un interview exclusif, il y en a pour 4 pages quand même,
ah ouais.
Et on se rend compte que le mec s'est un peu parlé.
Oh merde.
Tu vois, c'est pas mal. Et oui, où il déclare.
Attends, un footballeur qui parle et qui pense.
La mais... gueule.
Et où il déclare.
Oh putain, fait chier, merde.
Et il déclare, il ne suis pas un suceur des ballons.
Suceur des ballons.
Non, non suceur la pelota, tu vois. Hein. Voilà. Alors.
Non, c'est argotique en plus.
Alors, sinon, autre interview intéressante, celle de Frédéric Cantonetti, actuel entraîneur du l'OGC Nice. Et qui est un personnage en haut en couleur, on va dire, et puis qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est un petit peu rassurant. Hein. C'est-à-dire que bon, lui, langue de bois, pas trop, tu vois quoi. C'est on y va, ça cartonne et tout quoi. Donc c'est
parti
c'est
de
sympa.
Cette race d'entraîneurs avec Courbis et même Franck Dumas. Tu sais, c'est des bons clients d'interview et qui vont
ouais,
pas.
Ouais. Mais c'est marrant parce que son bon exception faite de Franck Dumas qui est un peu plus jeune.
Oui.
Mais Courbis ou Antonetti, c'est la même génération. C'est-à-dire, ce sont des gens, je crois, qui sont même croisés sur un terrain. Du temps où ils étaient joueurs et eux ils ont vécu le football de manière différente, c'est-à-dire ils ont commencé le football, c'était pas vraiment professionnel quoi. Hein, bon, Antonetti raconte un petit peu la façon dont ils étaient payés quand ils jouaient à Bastia, des trucs comme ça. Bon, ça c'est rigolo, c'est pas mal. C'est,
mais il y avait déjà le film À mort l'arbitre.
Non. Hein, le film
l'arbitre, c'est dans les années 70.
Non, c'est début 80. Hein, le Moki. Hein. Je suis désolé, quoi. Désolé pour toi. Hein, c'est début des années 80.
Sinon, verbal.
Sinon, on a également dans le SoFoot un article très intéressant sur Che Guevara. Alors, il faut savoir que Che Guevara, si vous allez dans les stades de foot et tout, généralement dans les copes des ultras, ben, souvent il y a les copes ultra de gauche, on va dire. Souvent il y a des hein, c'est l'emblème hein, Che Guevara, la tronche du Che et tout. Même dans les stades de foot et tout, il y a des mouvements ultra qui sont revendiqués guevaristes. Et là, ben, ça raconte un petit peu l'histoire de Guevara argentin, mais qui avait comme passion le football. Alors là, c'est sûr que bon, quand il a débarqué à Cuba, il s'est fait chier comme un rat mort et tout, parce que là-bas, à Cuba, c'est le baseball. Fidel Castro, il voulait que du baseball pour être en concurrence avec les États-Unis, bien entendu. Hein, c'était pas une culture sportive qui datait de la nuit des temps, mais simplement parce que bon, ben le baseball, ça le fait bien, et que en face, on a l'ennemi impérialiste qui est le roi du baseball. Donc
ils sont, pas mauvais les Cubains en baseball en plus.
Ouais. Ils sont même très bons. Ils ont déjà niqué les Ricains, hein, souvent quoi d'ailleurs.
Non, c'est pas une question parce que c'est un sport de batte qu'on doit dire le mot niquer s'il te plaît.
Ouais, d'accord. Ok. Sinon d'autres reportages.
Pourtant, un reportage, c'est du baseball.
Alors un reportage qui est vraiment d'actualité quoi, c'est Palestine, le football sous les bombes. Où ben on raconte qu'en Palestine on joue également au football, qu'il y a des terrains de foot, enfin ce qu'il en reste, et qu'il y a des équipes qui jouent au foot quoi. Hein, c'est-à-dire il y a un championnat, ils essayent d'organiser quelque chose. Mais avec les récents événements, bon, hein, ça fout plus ou moins.
Et d'ailleurs, c'est assez politique, enfin je veux dire religieux hein, là-bas, hein, parce que c'est la politique est très très étroitement liée déjà aux principaux mouvements religieux et principalement extrémistes. C'est vrai que le foot est un peu utilisé comme outil de propagande.
Oui, mais il y a quand même quelques personnes qui essayent de dépasser justement cet état des choses, et c'est pas plus mal. Hein. Outre Messi, quoi, qui vont faire la couverture de son foot, il y a également bon une grosse partie sur le Barça avec une interview de Guardiola, Pep. Alors là, bon, impeccable. Iniesta également, l'article hein, sur Iniesta, un gentil fantôme, on l'appelle quoi.
Casper,
ouais. Non mais c'est vrai hein, parce que le mec il est toujours vachement blanc et il est vachement pâle ce mec hein, et tu le remarques pas tellement sur un terrain. C'est pas le mec que tu vas voir taquiner niquer quatre mecs quoi au dribble et tout comme Messi, mais par contre c'est le mec qui lui file les ballons, les bons ballons, tu vois. Et lui ça fait plus longtemps qu'il est d'ailleurs en haut de l'affiche quoi à mon avis. Et également un article sur le président actuel du Barça, et là c'est pas piqué des hannetons, je peux vous le garantir.
Alors c'est plus Laporta, c'est un nouveau, non?
Si, c'est Laporta pour l'instant. Il est toujours
il va gicler là.
En juin, les prochaines élections c'est en juin. C'est-à-dire qu'il y a une motion de défiance, mais ça aurait foutu trop le bordel de le foutre dehors maintenant. Alors donc, on va attendre juin pour pouvoir le foutre dehors. Mais lui, il s'en fout parce que bon, d'après l'article, si tu veux, il est arrivé à ce qu'il voulait. C'est-à-dire construire son petit réseau et agrandir son petit réseau personnel. Parce que le monsieur est avocat dans le civil, donc ça veut dire...
Et,
bon,
et il est sur Viadeo ? Non, pardon, désolé. Ouais, peut-être. Facebook, peut-être.
Ouais, voilà, et il y a également aussi... Alors là, l'article m'a fait mourir de rire. C'est un article sur le bataillon de Joinville. Le bataillon de Joinville, bon maintenant ça veut plus rien dire aux jeunes parce que maintenant les jeunes ne font plus l'armée, c'est plus obligatoire. Mais il faut savoir que dans le temps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en 2002-2003, tous les jeunes d'un certain âge devaient partir faire le service militaire.
Avec un certain Roger Lemaire qui entraînait
là-bas. Et y compris les footballeurs professionnels, mais qui, et pas seulement les footballeurs professionnels d'ailleurs, mais tous les sportifs de haut niveau atterrissaient plus ou moins dans ce bataillon de Joinville, qui était donc un bataillon de l'armée hein, dans lequel il devait faire les corvées habituelles et tout, mais comme les footballeurs étaient plus riches que les autres sportifs, si tu veux quoi, ils vendaient les gardes et toutes les petites contraintes que t'as à l'armée et tout pour pouvoir rester peinard au lit. Et bon, avec des exemples de Vicage Dorasso, c'est Dorasso qui fait l'article d'ailleurs hein.
Ah bon?
Ouais c'est Vicage Dorasso qui fait l'article parce que lui justement quoi, il est allé au bataillon Joinville et tout. Bataillon Joinville qui justement a été entraîné durant de longues années hein. Je crois depuis les mi-80 jusqu'au 98 me semble-t-il. C'est Roger Lemaire donc qui était l'entraîneur en chef de ce bâton de Joinville en ce qui concerne les footballeurs. D'ailleurs, il a obtenu le titre de champion du monde militaire. Roger Lemaire juste avant de se barrer, je crois que c'était en 98-99 quoi, avec son équipe qui était composée pas de n'importe qui hein. Voilà, ça c'est le SoFoot. Je continue avec la revue de presse ou
non, on va se faire une petite pause musicale pour ces dames, un petit peu de poésie et tout ça avec un groupe local, excuse-moi. Avec un groupe local que j'estime beaucoup parce que c'est un excellent travail de composition, magnifique et tout ça. Non, je jure, je ne déconne pas, c'est vraiment un coup de cœur. Pialana, c'est le groupe et le nom du premier morceau pour ce spécial Tue l'amour, ça s'appelle le premier G.
Pire. Pas Pierre.
Elle, 17 ans, s'est laissée séduire place dans le bus. Il est accro à mort et voudrait bien qu'elle le sache. Il écrit des poèmes de très secrètes lettres qu'il fait lire à ses potes, espérant que peut-être la copine d'une amie, d'un cousin, d'un voisin qu'il connaît, en jurant de rien dire, lui fera passer. C'est lui qui a osé l'accoster entre le self et le cours de français. Ses sœurs un peu plus âgées lui avaient un peu dit comment ça marche une fille, psychoanatomie. Lui qui n'est pas si con, bien qu'il joue au rugby, fort de ses bons conseils, c'est dit, c'est du tout cuit. Des heures au téléphone, des débats passionnants, CPE droit de l'homme, Starac avortement, des pénalisations, renvoi des sans-papiers, Sarkozy, Ségolène, la terre qu'il faut sauver. Et un beau jour ça paye, l'osmose est optimale, pour leur premier baiser, au moment idéal. Le premier jet est souvent le plus court, on y met tout son cœur. Amour, mais Vinci au verso n'a pas plein l'âge au compte. Il faut de la bouteille pour contenter sa blonde. Sauf cas exceptionnel, c'est le même tarif.
Même tarif
pour tout le monde. Les petits couples flottent sur un nuage bleuté. Mais une chose de leur âge vient troubler leurs pensées. Ils en crèvent d'envie, trépignent d'impatience. Ils vont vivre bientôt leur première expérience. Elle n'est pas rassurée à l'idée de ce cap. Il paraît que c'est bien, mais quand même ça fait mal. Sa mère l'a griffé pour pas que ça dérape. Surtout protège-toi, avoir peur c'est normal. Du côté masculin règne la confiance. Outre la tragique question de la taille, tout va bien se passer. Le sortir de l'enfance sera une évidence, un détail. Le premier jet est souvent le plus court. On y met tout son cœur, tout son amour. Mais de Vinci au berceau, le pape à la Joconde, faut de la bouteille pour contenter sa blonde. Sauf cas exceptionnel, c'est le même tarif pour tout le monde. Comme pour mener l'auditoire à bout d'une émission, j'attends volontiers la fin de la chanson pour en dire un peu plus, donner des précisions sur cet instant dénudé, des frissons de plaisir, de cœur qui se désire, du corps à l'abandon. La suite on la connaît, du moins on la devine. Il fait tout pour prolonger cet instant sublime. Quelques secondes à repousser l'issue, si douce mais bien plus précoce que prévu. Sa fierté prend un coup, il se sent ridicule. Malgré les caresses, les c'était pas si nul. D'elle qui en effet reste un peu sur sa faim, mais n'en dit pas un mot, ils feront mieux demain. Le premier jet est souvent le plus court. On y met tout son cœur, tout son amour. Mais de Vinci au berceau, ne parle pas la Joconde. Il faut de la paix pour contenter sa blonde. Si les plus doux et d'entre nous s'en sortent, d'autres un peu trop fébriles, la semaine à la porte, que les plus honnêtes aujourd'hui me répondent. Combien après leur première nuit se morfondent. Sauf cas exceptionnel, c'est le même tarif pour tout le monde.
Du sport, ma foi, mais que se passe-t-il du côté des super-héros en collant moule burn?
Pour le savoir, il faut se procurer le comic box du mois de février. Alors, je vous avais annoncé lors de la sortie du dernier, le mois de janvier, du dernier comic book, non, du mois de décembre, puisque c'est le bimestriel.
Le comic box.
Qui est un comic box hors série spécial Watchmen.
Lequel
celui-là, celui-là, celui-là,
celui-là. Non, celui-là.
Voilà. Qui est sorti.
Oui, on sait. On a chacun notre exemplaire.
Attends que je repère la couleur. Ah, d'accord, ok. D'accord, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris, tu vois. Voilà. C'est pour ça que
Alors, explique, voilà. Explique pour ceux qui n'ont pas la couleur. Le dos aussi est différent d'ailleurs.
Ouais, mais ça c'est un petit peu logique parce qu'il faut savoir que dans ce nouveau numéro, la présentation est légèrement différente. Ils ont décidé d'alléger un petit peu.
Voilà, ouais, puisque nous on l'a acheté en fait au Festival d'Angoulême, hein, voilà. Donc c'est pas le même exemplaire que du sport à acheter en kiosque.
Non, mais j'ai pas encore trouvé.
Et Xavier, il a toujours pas compris. En fait,
j'ai pas trouvé encore.
C'est hors série que du sport n'a pas.
Ah.
Et ouais. Alors on lui remet dans les pattes.
Ouais. Allez, ça marche.
Un prêté pour un vomi.
Alors, dans ce comic box, la bande dessinée inédite. Alors, il faut savoir que du côté de Marvel, cette année, c'est l'année du 70-naire. Et c'est également
Des 70 ans.
70-naire.
du 70-naire. Il sait pas le dire en belge.
Et qu'à cette occasion, beaucoup d'événements vont arriver un petit peu flash comme ça, dont le retour de Captain America. Alors on se dit, mais putain, non, c'est pas normal, quoi. Faut pas déconner, quoi. On a bien vu Captain America se faire descendre dans Civil War.
Bah oui, ouais, il était censé être mort définitivement.
Bien vu, il est mort, quoi. Ouais,
ok. On spoil Civil War ici.
Eh bien non. Eh bien
c'est
non.
C'est pas le genre de la maison.
Eh bien non. Captain America va revenir, mais
revenir. Coucou.
mais je ne vous dirai pas comment. Par contre, là, c'est le Captain America White, la BD inédite scénarisée par Jeff Loeb et dessinée par Tim Sale. Hein, Tim Sale qui voyage indifféremment de Marvel à DC, pas de problème.
Avec des petits détours par Heroes,
voilà. Tranquille. Et, tous les matins, il arrive à son agence d'intérim. Ouais. On a quelque chose pour toi sur une série pour ABC, pour NBC, pardon.
Très trendy, hein. Sinon, revenons un petit peu au comic box. Avec au niveau des intervalles. Alors déjà, tout un topo sur Bucky. C'est-à-dire Bucky, c'est le petit de, c'est l'alter ego de Captain America, hein. Celui qui est mort normalement, en principe. Mais il y a vachement longtemps. Mais Bucky revient aussi. Tu vois, alors
deux Captain America.
Non, ben Bucky, c'est le Bucky, c'est le petit.
C'est le Robin.
Ah, le sidekick de Captain America. Voilà. Ah, ben voilà.
Voilà. Alors,
Buddy Guy. Hein.
Il y a au niveau des
le mini Buddy Guy.
Ouais, au niveau des articles de fond, un article très intéressant sur la politique éditoriale de DC. Qui se rend compte que King of Tom, sorti il y a 30 ans, c'était 20 ans, c'était pas mal du tout, et que
c'était il y a 20 ans à peu près.
Ouais, c'était il y a 20 ans, et que on va se servir des idées créées par Mark Waid et Alex Ross dans King of Tom pour continuer à développer des trucs. Pour
c'est la maison des idées.
Ouais,
hein.
C'est Marvel. Hein. Y a au niveau des interviews. Alors là, c'est vraiment très très bien parce que c'est quand même du lourd. Il y a Doug Braithwaite, il y a Phil Brion, et d'ailleurs, il faut savoir que si vous achetez les mensuels Spider-Man, Marvel Heroes, Marvel Icons, X-Men ou Astonishing X-Men, à chaque fois, vous avez un poster, un cinquième de poster dessiné par Phil Brion qui est vendu avec le périodique. Donc, il y a également.
Quand je pense qu'il a encore oublié les rendez-vous qu'on a fixés l'an dernier.
Il nous a posé un lapin.
Hein.
Ah bah ouais. Bah,
pas qu'un seul.
Non, le truc c'est qu'il s'est pas pointé à l'interview, c'est qu'il s'est pas pointé au festival.
Ouais. C'était plus simple.
Et il faut savoir que Phil Brion, un petit peu à l'instar d'Olivier Coipel, a suivi pratiquement le même cursus, hein, c'est-à-dire études en France, études de dessin en France, puis débauché par un studio américain, DreamWorks pour Coipel, Disney pour Brion, et après, tout simplement, on en arrive à travailler pour l'une des grosses maisons d'édition, Marvel ou DC, pour les deux précités. Il y a également un entretien avec Lee Bermejo, un entretien avec Chris Ware. Lui, c'est quand même spécial, hein, parce que lui, Chris Ware, c'est pas un dessinateur de comics comme on pourrait en parler. C'est un type qui suit une carrière tout à fait parallèle et qui a son monde personnel qui est plus habité par le 19e, 20e siècle,
ouais.
Des petites choses comme ça, quoi. Une espèce d'esprit simili steampunk, et avec ses personnages qui lui sont propres, hein. Donc Corrigan est le meilleur exemple. Et il y a surtout, alors là on savait pas, moi je savais pas franchement, l'interview avec Léa Moore, qui n'est autre
c'est
que la fille de Alan Moore. et qui est également scénariste, donc ils sont installés à Liverpool avec son mari. Et scénariste qui scénarise des Witchblade, des petites choses comme ça, des trucs un petit peu plus improbables, on va dire, vraiment, qui ne font pas partie des deux grosses maisons d'édition DC et Marvel. Voilà. Il y a plein d'autres choses que j'oublie dans ce nouveau comic box, mais bon, ça reste quand même comic box de toute façon. Sinon, on parlait de périodique. Le nouveau Marvel Heroes numéro 16 vient de sortir avec. Et ça c'est très important, c'est la fin de l'histoire Les Vengeurs, l'initiative, c'est-à-dire cette histoire de camp d'entraînement pour jeunes super-héros qui vont apprendre à travailler en équipe, qui vont apprendre
et à servir le gouvernement.
Et à servir le gouvernement, voilà. Bien sûr, hein, puisqu'ils travaillent pour le chiffre. Attends, on peut pas déconner quand même. Hein.
C'est à peine exactement, tu sais, t'as les séries W comme 24, tu as les bandes dessinées W comme ZMZ et Marvel Heroes justement, qui à mon avis sont condamnés à dépérir assez vite.
Je sais pas, hein, parce que justement dans l'initiative, on nous familiarise avec des nouveaux super-héros qui ont des pouvoirs un petit peu zarbi quand même, hein, il faut le dire. Et ça insiste aussi, surtout dans l'initiative, ça insiste beaucoup sur une situation qui est réelle, hein, pas qu'aux États-Unis, quoi, mais là c'est les États-Unis qui sont cités en exemple, entre les différentes organisations gouvernementales qui peuvent se court-circuiter, qui peuvent s'annihiler, qui peuvent décider que les choses seront faites comme ça, avec ou sans l'accord des personnes qui sont au-dessus d'elles. C'est-à-dire une situation qu'on connaît, hein,
dont on a parlé tout à l'heure.
Récente, si on lit un petit peu l'histoire récente, on se rend compte que c'est vrai. George Bush n'était pas au courant qu'il n'y avait pas d'armes de guerre massive. Tout. Lui, il est allé de bon cœur.
Juste raconter des mensonges.
Mais oui, mais c'est pas grave.
Pauvre petit neuneu.
Mais c'est pas grave. Voilà, donc pour l'initiative, il y a également, bien sûr, Secret Invasion, donc la seconde partie, Nick Fury, le retour. Et Nick Fury, là, il est en train de composer son nouveau team pour justement essayer de combattre ceux qui vont venir, ceux qui vont essayer de nous envahir, c'est-à-dire les Skrulls. Et il y a aussi... Alors, on appelle ça, il y a également la suite de Hulk avec le Hulk rouge et le Hulk vert qui se tapent sur la gueule et tout, ils font que ça depuis deux épisodes, quoi.
Ça fait couleur caca quand on mélange les deux.
Là, mais c'est assez rigolo, quoi. C'est pas mal. Hulk n'est pas un balai, c'est bien, bien carton, quoi, tu vois.
Après,
le Hulk n'est pas une tapette de l'Ultimate.
Moi, je n'ai qu'un avis là-dessus, hein. Voilà.
Non, mais le plus marrant, c'est que quand à la fin, t'arrives à la fin de l'épisode et tout, quoi, et qui c'est qui arrive?
Zorro!
Thor qui arrive!
Ah, ouais!
Et qui arrive, c'est marrant parce que ils ont bien fait la mise en page, parce que juste après, t'as deux histoires qui sont des fill-in, en fait, hein, qui sont pas des histoires qui vont dans la continuité du renouveau du Thor de Olivier Coipel avec l'autre scénariste dont je me rappelle pas, mais qui là sont des histoires qui permettent de faire patienter un petit peu, parce que Coipel a beaucoup de retard pour la livraison des planches, et donc ils ont décidé de filer quand même de continuer à remplir avec Thor, mais en mettant des histoires qui n'ont rien à voir avec qui sont indépendantes. Et là, en fait, quelles sont les deux
Thor aiguise son marteau.
Quelles sont les deux petites histoires, hein, c'est l'âge du tonnerre, et en fait ça nous remet un petit peu dans la mythologie classique de Thor, et ça nous apprend un petit peu qui est qui. Et quels sont quelques petits mythes, hein, qui viennent directement, hein, de ces légendes nordiques, avec carrément le plan, tu vois, avec Asgard, Midgard, Odgard, et les différents endroits où se rendent les dieux nordiques. C'est assez bien foutu.
Il cite ça de tête, pas mal.
Et c'est scénarisé par Matt Fraction et dessiné par Patrick Zircher, que je connaissais pas du tout. Hein. Mais moi je trouve que ce mec dessine vraiment très très bien. C'est vraiment pas mal, quoi. Hein, c'est très fin, très beaucoup de détails.
Ouais, sympa.
Hein, c'est rush, quoi. Disons, le mec il travaille, hein, y a pas de problème. Hein. C'est pas du Team Cell, quoi. Ça a rien à voir, quoi.
C'est
rien
pas
à
voir.
Bah, tout ça dans le Marvel Heroes, donc numéro 16, et qui annonce plus ou moins Secret Invasion. Faut aussi savoir que, eh bien, un mensuel spécifique Secret Invasion est paru depuis ce mois-ci aussi. J'essaierai de vous en parler la prochaine fois. Voilà. Moi, pour
un truc, je sais qu'on est pressé, mais juste deux mots sur le fameux comic box qu'on a évoqué tout à l'heure, le Special Watchmen, où c'est mi comic box Special Watchmen, mi comic box spécial BD anglaise. Et vous avez, puisqu'on vous savez qu'on parle beaucoup de la BBC ici, donc il y a une interview, il y a un gros dossier sur Doctor Who qui a le travail de Doctor Who sur l'inspiration dans les comics.
Mais il n'y a pas que ça, il est aussi question des séries Anderson avec les Thunderbirds.
Oui, il parle aussi de la fille d'Alan Moore qui a débuté sa carrière en scénarisant Doctor Who et sa fille prend le même chemin. Il y a une bande dessinée de
la BD, attention, on parle pas de la série télé.
Oui. Il y a la bande dessinée de Wildcats aussi à l'intérieur. Il y a un dossier sur Captain Britain, une interview de Brian Talbot.
Tu as aussi une interview de Gaiman, sachant que cette semaine il y a eu la sortie de son film réalisé par Henry Selick, mais qui est sorti aux États-Unis, qui s'appelle Coraline, tiré du bouquin de Gaiman, et le film sortira en octobre en France.
D'accord. Voilà, donc on a fait le tour du comic box Special Watchmen qui est au printemps 2009 hors série.
On reste en salle ?
Ouais.
La chronique qui pue vous est présentée par Thomas en Dolby Stereo Surround, pour une fois.
Previously on Supplement Weekend, vous vous souvenez peut-être que nous avions mangé la galette des rois et que c'est moi qui avais attrapé la fève, j'avais donc un gage d'aller voir LOL.
Ah oui.
Laughing Out Loud petit R.
Et rien de plus débandant finalement.
Et de le chroniquer surtout à l'antenne.
Attention, d'en faire un résumé.
Un résumé sans spoiler et faire une vraie chronique en fait. Et pas se foutre de la gueule du film ou
de ne pas s'être endormi pendant le film.
Ce n'est pas le cas. Vous connaissez mon professionnalisme, même si nous.
Donc ils sont endormis, voilà, effectivement.
Donc il s'agit du film donc LOL, Laughing Out Loud, petit R. Un film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Christa Terré et Alexandre Astier.
Réalisé par MSN.
Non, c'est juste des allusions à MSN et ils ont mis leur logo pour sponsoriser, mais c'est tout. Alors, c'est la rentrée et la lycéenne Lola, surnommée LOL, qui veut dire mort de rire en langage en MSN ou MDR, PTDR, mais ça fait pas très prénom. Donc,
non, PTDR, c'est notre acronyme.
C'est PT...
C'est Patrick... Roffle, Rolling on the Floor Laughing.
Voilà. Bref, donc Lola retrouve ses amis et son petit copain manque de bol, lui avoue l'avoir trompé pendant les vacances. Donc là, c'est le drame, donc rupture. Donc on commence l'année sur des mauvaises bases. Hein. Tout se complique quand deux perfites, c'est la blonde platine, la blondasse habillée en tepu, tente de lui mettre le grappin dessus sur l'ex de Lola. Faut aussi dire que c'est pas non plus simple à la maison, puisque Lola, il y a le dialogue avec sa mère qui est compliqué, sa mère jouée par Sophie Marceau. Celle-ci fréquente à nouveau son ex-mari en cachette, et oui, elle a aussi ses petits secrets, alors elle sait pas trop l'éducation qu'elle doit donner, le degré de sévérité qu'elle doit faire avec sa fille, parce qu'elle sait pas si elle doit être super exigeante, si elle doit plus être plus laisser couler, voilà. Sachant que c'est assez rigolo d'avoir pris Sophie Marceau en maman, puisqu'on sait qu'elle a été jeune... voilà, la pompe, tout ça.
Ah bon ?
Oui.
Je parais qu'elle a tourné dans un film bien, bien guimauve d'amour et tout ça.
Hey, oui, je parais même. Il
y a même une suite, c'est ça ?
Oui, oh, la boucle 2. Et donc voilà, donc l'œil est assez rigolo. Mention spéciale aux jeunes acteurs, tout sponsorisé par le gel Tignasse de merde, hein, version Le Péril Jeune. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Chris qui m'a fait l'amabilité de ne pas me permettre d'aller le voir accompagner le film, puisque sinon ça aurait été un peu la loose.
Même ta copine n'a pas voulu
venir. Non, elle a pas voulu venir.
C'est vrai que vous êtes passé au magasin tous les deux et tu m'as dit que vous allez voir LOL et j'ai pas tiqué que Chris aussi était parti.
Oui. Voilà. Donc, finalement. Et à la surprise de tous, LOL, bon, même si ce ne fait pas partie de mes films de prédilection, c'est pas si mal. Parce qu'en fait, c'est une chronique adolescente,
Thomas,
qui a le...
Thomas,
qui qu'il y a les qualités, les tares des films adolescents. C'est Anne ou les petites anglaises. Bah, c'est le genre
C'est génial.
Ce genre de film, quoi.
Quoique Pascal Thomas était quand même un peu plus rentre dedans à une certaine époque. Oui. Hein. Bon, il s'est assagi avec le temps, quoi. Mais il faut quand même dire que Anne ou les petites anglaises, puis celui qui est je me rappelle pas le titre, celui qui l'a tourné juste après, c'était quand même bien, ça allait quoi, oui. Sympa quoi.
Bah là en plus, il y a un film de, il y a le voyage de fin d'année dans l'année scolaire où il se barre à Londres, hein, donc c'est assez rigolo. Lisa Zuelos, la réalisatrice, faut savoir qu'elle avait été scénariste de 15 août. Film Europa. 15 août, comment que je vois que JB fait la moue, il était pas si raté.
Un film piraté par Free, c'est ça?
Non, moi je. Ouais. Moi non, je trouvais ça rigolo parce qu'en plus, c'est un petit film. Bon, voilà, bon, étant mec, j'étais moins sensible à l'humour que Sabrina qui était mort de rire, hein, puisque c'est un film qui est gratine justement. Les mecs, ils sont laissés, qui sont livrés à eux-mêmes, ils savent pas faire une machine, bon voilà. Donc elle est scénariste, elle a été scénariste de 15 août et future réalisatrice de 16 août, la suite 15 août, qui était réalisé par Patrick Alessandrin, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est réalisateur de Banlieue 13 Ultimatum. Oh, oh, la boucle est bouclée.
Oui, ça aussi, c'est un film d'adolescent qui parle d'amour et voilà. de bien-être.
Et ça tourne dans la gueule.
Dans lequel tu joues.
Je serai pas trop. Je serai pas trop violent.
Voilà, avec Irma Karzi. Et Lisa Zuelos était également réalisatrice de Ainsi soit-elle. Le film au féminin qui était assez qui était à forte dose érotique hein, déjà avec Marie Delterme, Amira Khazar.
J'ai pas suivi juste avant, c'est pas pour t'ennuyer, mais elle a été la scénariste de B13.
Non, elle a été scénariste de 15 août,
ouais.
qui est dans le même réalisateur et celui de Banlieue 13,
d'accord.
Ultimatum.
De B13 Ultimatum.
Voilà. Alors il faut savoir que dans LOL, la réalisatrice s'octroie un petit rôle. Bon, elle a pas dû s'embêter trop avec les dialogues puisqu'elle joue le rôle d'un psy. Hein, ça fait. Donc c'est assez rigolo.
Et au bout d'un moment, elle sort.
T'as un problème mental?
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de LOL pour faire simple? En fait, c'est. Franchement, moi j'ai été surpris de. Enfin, on m'a surpris en train de rigoler. C'est drôle, franchement, il y a quelques dialogues sympas. Enfin, de toute façon, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu un peu de quoi il était question quand il y a Sophie Marceau qui débarque beaucoup plus tôt que prévu, alors que sa fille n'a pas fini de ranger les objets, qui a pas fini de mettre à la poubelle les trucs de la soirée qui vient d'avoir lieu. Donc elle dit c'est quoi ces pétards, c'est quoi ces capotes? Alors il y a la grand-mère qui dit c'est pas moi. C'est un peu de ce genre-là. Après, on a aussi par exemple le petit copain qui fait de la guitare et tout, qui veut aller au concert parce que c'est un leader de groupe et il y a son père qui dit non, tu ne feras jamais ça. Ça fait un petit côté cercle des poètes disparus. Bon, voilà, ça abrite pas par son originalité, mais ça a le mérite d'être correctement fait et éviter un peu les écueils en disant ouais, bon, il y a trop de poncifs. Donc c'est petite chronique ado au féminin. Bon voilà, c'est sympatoche, gentillé. Peut-être je le verrai pas 10 fois dans ma vie, mais en tout cas, voilà.
Xavier, tu es d'accord avec moi que maintenant, dès que tu as des places pour ce type de film, tu sais à qui les confier directement?
Non.
Sans te poser de questions.
Non, parce qu'on n'a pas la place dans cette émission de chroniquer ce genre de. Enfin, ce genre.
Mm-hmm. Voilà. Non, nous sommes ouverts à tous les genres dans cette émission.
Absolument.
Voilà. On ne chronique pas que des films de baston ou des.
Non, mais c'est quand même ce que tu vas faire maintenant.
Oui, c'est quand même ce que je vais faire maintenant. Je rappelle la référence du film. Donc, il s'agit de LOL, Laughing at Loud Petier, réalisé par Lisa Zuelos avec Sophie Marceau, Alexandre Astier et des jeunes interprètes avec en tête Christa Terré qui est, ma foi, d'un fort beau gabarit.
Prends ça dans ta gueule!
Et on passe au DVD! Thomas.
Alors Thomas, tu veux nous parler d'un film qui tu as vu une chronique intéressante à dégoût dans un site.
Oui, je me suis basé sur une critique sur internet avant de me décider à l'acheter. Voilà. J'avais pas vu la bande annonce, j'ai vu qu'il y avait un nouveau film avec Donnie Yen réalisé par Wilson Yip. Il faut savoir que j'avais chroniqué les deux précédentes collaborations qui étaient SPL et Dragon Tiger Gate et qui ne m'avaient pas franchement emballé. Et il faut dire que celui-là, je m'attendais à ce que ce soit un peu du même acabit jusqu'à ce que je vois une critique sur internet sur le site DVDrama, en l'occurrence, qui disait que, eh bien, si vous cherchez du scénario compliqué, ben n'allez pas voir ce film. Par contre, si vous voulez de la sauvagerie et du truc qui tabasse, précipitez-vous dessus.
Bon,
moi, mon sang n'a fait qu'un tour, je l'ai acheté.
Oui.
D'ailleurs, c'est un film asiatique, ça m'étonne que tu n'aies pas mis le jingle.
Parce que je ne savais pas, j'étais pas sûr.
Ah, d'accord. Et donc, ma foi, je suis assez agréablement surpris par ce film, car à mon grand bonheur, c'est le cinéma de Hong Kong comme on l'aime, bien transpirant, fait bien péter. Sauvage, bien violent.
Alors, est-ce que c'est un tue-l'amour ou est-ce que ta copine, du coup, a beaucoup aimé?
Alors, ma copine, il faut savoir que ce n'est pas le genre à apprécier les trucs à l'eau de rose et tout. Elle adore tout aussi avec grosse épée, avec gros bourrin, donc elle a adoré.
Voilà, bon d'accord, ok, c'était pas un tue-l'amour, donc erreur de casting dans cette émission.
Voilà, donc alors on va raconter l'histoire. Avant la rétrocession de 97, donc c'est un film d'époque, l'inspecteur Ma Yoon tente de démanteler un gang de triades dirigé par trois frères vietnamiens. L'inspecteur collabore donc avec un collègue infiltré dans le gang, jusque là pas de grande originalité, et quand l'un des frères est capturé, les deux autres s'en prennent aux hommes de l'inspecteur, aux témoins, aux preuves, donc de façon à exterminer bien les dommages collatéraux. Vous savez que dans des films hongkongais, quand ils prennent des otages, eh ben on n'est pas à l'abri du fait qu'ils prennent des otages des petits gamins ou des gamins je te jette dans la rue parce que j'ai plus besoin de toi. Bon, là-bas ils savent que par exemple quand il y a des chiens qui passent, tu n'es pas sûr qu'ils vont pas y passer.
Ah, ça c'est clair. Hein.
Voilà.
Au moins il y a de la surprise.
Voilà, donc ce sont des dommages collatéraux qui peuvent gicler des fois, qui peuvent être écrasés. Et là, manque de bol, bon, les méchants ils ont des méthodes un peu bourrines. Il faut savoir que l'inspecteur est aussi réputé pour être très brutal et ne pas y aller avec le dos de la cuillère quand il s'agit d'interroger des témoins, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être interrogés, forcément. On a une scène.
Ça va, je l'ai fini. Vous pouvez faire entrer son avocat.
C'est ça. On a une scène à un moment donné qui est bien burnée, montrer juste ce qu'il faut. Tu comprends que le mec, faut pas lui chercher des noises, quoi. Alors, je suis bien embêté puisque maintenant, on ne peut plus s'organiser comme avant. On a une émission avant nous, donc je n'ai pas pu finir ma chronique en direct. Donc, ma chronique écrite s'arrête ici. Alors, je vais vous dire de mémoire ce que j'aimais dans ce film.
Je peux vous dire que le prompteur, effectivement, est vide.
Alors, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que tout à l'heure, je parlais des précédentes collaborations entre le réalisateur et la star, Donnie Yen, qui était SPL et Dragon Tiger Gate. Alors, Dragon Tiger Gate, c'est une adaptation d'une BD chinoise qui était vraiment comic books live. Donc on va passer dessus, c'était décérébré à fond. SPL, ça se voulait un film d'arts martiaux un peu plus avec une ambition graphique, avec des lumières soignées, etc. Ça se voulait un polar, regardez ce qu'on peut faire avec des super techniciens et tout. Bon là, il n'est pas du tout question de ça, même si les chorégraphies sont vraiment mais à tomber, puisqu'ils ont eu le Golden Horse Award, plus les Hong Kong Awards aussi, donc il a été barre de récompense au niveau des chorégraphies martiales. Il faut savoir que Donnie Yen a pris un petit peu la relève des Jet Li, Jackie Chan, etc. Puisque le mec a quand même 40 ans, hein, il est quadragénaire, mais il a fait sa spécialité de faire des chorégraphies qui utilisent les techniques de free fight et surtout des enchaînements au sol que tu n'avais pas jusque-là. Avant, classiquement, dans les films de baston, quand tu te retrouvais à terre, bon, c'était que t'étais vaincu ou il fallait absolument te relever. Là, le mec se jette volontairement à terre pour faire des clés de bras, des balayettes, etc. C'est une forme d'arts martiaux que t'as rarement vu au cinéma et qui, ma foi, fonctionne vachement bien. Et il s'est adjugé les services de plein de spécialistes de free fight, puisque faut savoir que le free fight, ça combine pas mal d'arts martiaux venus des quatre coins du globe. Donc, on a un spécialiste des clés de bras, un spécialiste plutôt du taekwondo, etc. Donc c'est plein de techniques qui sont mixées là-dedans. Et c'est un film qui est vraiment poussiéreux. C'est vraiment le retour au film d'arts martiaux classique hongkongais, avec, tu vois, que les mecs, on dirait qu'ils sont à 180 plus 500 minutes, ils sont chargés de coke et on dirait qu'ils passent leur vie à courir, tu vois. Tiens, je vais prendre un stylo, ah, ils courent, prends le stylo, ou tiens, je dois prendre la
plus
voiture,
vite, Jack Bauer.
C'est ça. Et donc là, on a aussi une dernière partie du film qui est dantesque, mais vraiment, les beignes qui se mettent, mais tu t'y crois même pas, c'est le niveau vraiment des films thaïlandais avec style Ong Bak ou L'honneur du dragon. Et là, mais tu vois que les mecs ils transpirent. Dans les bonus, tu vois que le méchant qui justement joue le bras droit de l'oracle dans Matrix 2 et 3, c'est le chinois dont on voit jamais le visage avec lunettes de soleil, Colin Chou, il disait j'ai fait récemment l'essentiel de ma carrière aux États-Unis. Bah là, j'ai souffert. J'ai vu que j'étais revenu à Hong Kong. Putain, je vais pas les enquiller comme ça, les films, maintenant. Hein.
Alors, t'es allé voir les petits minables?
Bah, c'est ça. Et le film, franchement, si vous aimez le cinéma burné, poussiéreux, où le scénario était comme prétexte pour aligner les combats vagerie, mais genre, tu vois même pas ça en Occident, quoi. Voilà, c'est un film pour vous. Donc, Flashpoint de Wilson Yip avec Donnie Yen et Colin Chou. C'est vraiment de Laurent Barr. Une dernière partie dans la jungle où voilà, ils règlent leur compte chacun à leur tour aux trois malfrats. Ça vaut son pesant de cacahuètes et fallait pas l'énerver. Donc voilà, c'est très bon film en DVD qui est édité du sport je sais plus, M6 vidéo peut-être.
C'est Pâté.
Pâté, ah, voilà. Avec des bonus très très intéressants, je crois 50 minutes de making of de baston. Où on voit.
Mais c'est pas du making-of à l'américaine. Hein.
Ah non, non. Et puis là, c'est des bonus pour montrer que c'est vraiment des artistes martiaux. Donc les mecs, même sur tatami et en survêt, tu vois qu'ils savent bouger, quoi. Voilà.
Merci. Ben justement, comme on a, comme on est un petit peu serré sur le temps, 13h21, on entame avec la loi des séries.
Ouais.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Du sport, ô grand saint patron de la sainte télécommande, que nous as-tu trouvé de bien débandant pour la Saint-Valentin?
Ah, de bien débandant, ben justement pour la Saint-Valentin, c'était l'occasion hein, de sortir ceci. C'est tout nouveau, complètement inédit, et c'est signé John Waters. Petit crime entre époux.
Ah, alors, John Waters.
Alors,
grand pape.
Le pitch est très simple. C'est John Waters qui intervient. Au début de chaque épisode et qui va présenter un petit peu la situation à la manière d'Alfred Hitchcock dans Alfred Hitchcock présente, avec bien sûr l'humour et le nonsense propre à Hitchcock en moins hein, c'est John Waters. Ils sont pas du même côté de l'Atlantique.
C'est plutôt premier degré.
John Waters, lui, il est plus rentre dedans sur les transgressions, on va dire. Hein, c'est un des rois de la transgression, quoi, au cinéma. Mais ça va être un petit peu plus soft de toute façon. Le format de ces épisodes est très court. Hein, c'est des 25 minutes, mais à l'occasion, alors. Bon, ça raconte justement ce qui peut se passer entre mari et femme, entre mec et nana, et les petits dommages collatéraux hein, qui vont suivre parce qu'ils s'entendent pas tellement bien. Petit crime entre époux, donc c'est ce soir sur Série Club à partir de 20h45, 6 épisodes, c'est-à-dire toute la soirée hein, jusqu'à minuit, vu que chaque épisode fait 25 minutes, donc le petit crime entre époux de John Waters sur Série Club ce soir à 20h45. Du côté des reprises, et ça c'est pas mal parce que je vais enfin pouvoir regarder cette série qui a été multigrammisée, Golden Globisée même. Je parlais de 30 Rock qui est sorti sur Canal
Plus et qui passe sur décalé à 20h en ce moment en semaine.
Et qui va passer sur Comédie à partir de ce soir.
M'en fous, je regarde en clair sur décalé et c'est à pleurer de rire.
Ouais,
c'est à se pisser dessus.
Ou alors vendredi prochain à partir de 23h10 là pour 3 épisodes, le pilote et les 2 épisodes suivants de la saison 1. C'est en version multilingue hein, bien sûr sur Comédie, 30 Rock donc avec Alec Baldwin, avec surtout Tina Fey qui est la scénariste, qui est l'actrice principale et
surtout la productrice.
La productrice aussi.
C'est très très libéré hein. Attention, ça envoie.
Ah oui, ça envoie pas mal. Attention hein, c'est ça parle des coulisses de
la télévision et surtout de la compagnie qui est parente de la chaîne de télé. La chaîne de télé, c'est NBC, et la compagnie parente, c'est General Electric. On rappelle quand même que Alec Baldwin arrive en tant que directeur de la programmation des micro-ondes et se retrouve aussi en charge de la programmation des télévisions et ça envoie mais du pâté, mais c'est énorme.
Alors,
c'est absolument énorme.
Donc c'est ce soir à 18h10 un épisode, ou alors vendredi prochain 23h10 les 3 premiers épisodes donc de 30 Rock sur Comédie. Sinon de Dirt, alors je vous avais dit tout le mal que je pensais de la saison 2 la semaine dernière. Du coup je vais même pas regarder les épisodes qui sont passés jeudi, tu vois, pour te dire hein. Par contre pour les masos ou pour les pervers, eh bien Canal Jimmy vous propose à partir de ce soir presque une nuit Dirt, vu que l'ensemble de la deuxième saison de Dirt sera diffusé ce soir sur Canal Jimmy à partir de 23h15. L'ensemble, c'est-à-dire les 7 épisodes qui ont pu être tournés avant la grève des scénaristes pour Dirt et qui a signé d'ailleurs l'arrêt de mort de la série. soit dit en passant, c'est pas plus mal quoi, vu ce qui était proposé lors de cette saison 2. Donc ce soir, Canal Jimmy 23h15, Dirt, la saison 2 en intégrale du 1 au 7e épisode. Sherlock Holmes est de retour.
Aïe.
Notre Doctor House favori est de retour.
Déjà, prochainement au cinéma, réalisé par Guy Ritchie, avec les traits de Robert Downey Jr.
Oui, Robert Downey Jr. Ouais. Je vous en ai parlé quoi, la dernière fois. Quoi. Ils étaient en cours de tournage il n'y a pas si longtemps que ça. Hugh Laurie, donc, Doctor House, revient pour une saison 4. Alors, on se rappelle qu'à la fin de la saison 3, il a viré tout le monde.
Ouais. Il en a viré un et les deux autres se sont barrés.
Ouais, les autres sont barrés. Enfin bon, ils sont barrés parce que bon, ils en avaient vraiment ras la casquette. Ah, bon,
ils ont mis du temps. Hein.
Ouais. Mais ils vont rester dans le coin. C'est-à-dire que ils sont virés de l'équipe, mais ils sont pas forcément virés de l'hosto. Hein. Ok, ce qui va permettre de continuer les petites relations qu'ils ont développées durant les trois premières saisons. Par contre, l'essentiel de la saison 4 sera basé, eh bien, déjà au départ, eh bien, sur le recrutement d'une nouvelle équipe. Donc on s'attend à une bonne partie de plaisir, hein, oui. Connaissant le caractère un petit peu spécial de Dr. House. Et également un des temps forts de la saison sera certainement le striptease de Cody. Ouah, Lisa Eldenshain à poil, ouais, trop cool.
Moi je préfère comment elle s'appelle,
la blonde.
Non, la petite brunette de son équipe.
La patronne.
Cameron, pas Cody, la celle qui s'est barrée.
Cameron, mais oui, c'est Cameron. Pas une brunette, elle est blonde.
Elle est blonde ?
Oh oui.
Ah, je sais pas, moi.
Ah oui,
elle est pas blonde.
Ah oui, si, c'est une Australienne.
Xavier ?
Non.
Vérifie,
je peux pas.
Ah, c'est une Australienne. Ah si, bien sûr. Hein. Enfin, elle est pas blonde, mais elle est pas brune. La brune, c'est Lisa Eldenshain, justement, quoi. Nouveau début de saison également pour Dexter, dont ce sera la saison 3 à partir de jeudi prochain à 20h45 sur Canal+. Alors ça, là, ils ont fait très fort Canal+, quand même, parce qu'ils viennent de terminer la diffusion de la saison 2. Hein, jeudi dernier, ils viennent de la
bande-annonce qui était très très forte.
Et là, eh bien, saison 3, ça va cartonner encore plus parce que Michael C. Hall, Dexter, va rencontrer eh bien un adversaire assez à sa mesure et pas n'importe qui, car il s'agit quand même d'un procureur qui est vraiment très fâché que Dexter ait descendu son frangin. Et ce procureur est interprété par Jimmy Smith.
Fallait
et
pas.
Et là, ça va être hyper chaud.
C'est
hyper
qui
chaud.
C'est qui? Jimmy Smith.
Jimmy Smith, l'inspecteur Smith. Bobby Simone dans New York Police Blues. C'est également, je vous avais parlé de Kane, c'était saga dans le sud des États-Unis à propos de la récolte du sucre de canne et tout ça, quoi, où il jouait le rôle du chef de famille. Jimmy Smith, c'est également les dernières saisons de À la Maison Blanche, car c'est lui qui reprend le flambeau.
Ah,
c'est lui qui va se faire élire ou pas lors de la dernière saison, quoi, et remplacer justement Martin Sheen à la tête des États-Unis d'Amérique. Donc ok, c'est quand même un acteur,
un gros client.
Ouais, c'est quand même un bon acteur, hein, y a pas de problème.
Je modère juste ton info, ce ne sera pas vraiment l'un contre l'autre, détrompez-vous.
Non, mais c'est-à-dire qu'au départ, on pourrait penser que
ça va se tourner là.
Je ne spoil pas.
Non, à peine.
Au départ, on pourrait penser que ça va se passer de cette façon-là.
De toute façon, tu le sais très rapidement.
Oui, mais bon.
Je ne veux rien savoir, c'est quand même un spoiler.
C'est comme dans Alias, à la première micro-coupure pub, déjà, il y a les 33 rebondissements.
Une reprise quand même. Et c'est une série dont je vous avais parlé il y a quelques années, quand même, déjà. Ouais, c'est vrai, quoi. Mais qui est rediffusée sur France 4 tous les jours de la semaine à 18h15.
Oula.
C'est Boston Public, parce que si je vous dis David Akele, vous allez vous dire qui c'est ce mec et tout, quoi.
C'est qui ce mec.
C'est également ce que les gens disent quand ils voient Michelle Pfeiffer, ils disent c'est qui le mec à côté d'elle. C'est le mec à Michelle Pfeiffer. Et c'est également
tu peux répéter, c'est
David
Akele.
Non,
mais quand tu dis Pfeiffer.
Pfeiffer, bah oui. C'est le mec qui a quand même créé avec d'autres LLO, c'est-à-dire la Los Angeles, The Practice et Ally McBeal. Hein, donc il a quand même un cursus relativement fourni.
Ah mais David et Kelly.
David et Kelly.
Évidemment.
J'avais compris tout à l'heure David Kelly.
David et Kelly.
David et Kelly, d'accord.
Voilà. Alors
venez de voir subitement une lampe s'allumer. À la radio, c'est pas très visuel.
Tout
mais ça passe quand même. C'est la même émotion.
Voilà. Il y a deux, trois petits engrenages juste avant.
Alors, si, si on suit un petit peu le cursus des et les thèmes abordés dans les différentes séries de David et Kelley, on se rendra compte que ce type-là marche bien du côté de la loi, des avocats, et c'est normal, il a suivi des études de droit avant d'être scénariste. Donc LLO, hein, ça se passe dans un cabinet de
c'est incroyable quand même qu'aux États-Unis,
dans un cabinet d'avocats, Ali McBeal dans un cabinet d'avocats et Boston Public
dans un cabinet d'avocat,
dans une école publique à Boston.
Oh.
Et là,
mais tu ne connais pas cette série.
Et non, vraiment très intéressante.
Elle est pas mal, hein, honnêtement.
Car ça nous plonge un petit peu sans avoir les tares et les poncifs qu'on peut voir dans les différents films américains à propos de l'école aux États-Unis. On voit toujours ces longs couloirs avec ces casiers, ces salles de classe qui sont toutes immaculées, géniales et tout. Là, ben, on va plonger dans ce qu'est vraiment l'école publique aux États-Unis, avec les déboires des profs, avec les élèves rebelles, avec les histoires d'amour entre profs et élèves.
En plein milieu d'un ghetto, en plus.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas le côté le plus flagrant.
C'est vraiment bien carton quand même. Hein. C'est bien écrit, c'est vraiment plaisant.
Une série télé sur les pompiers.
Oui.
Bien sûr.
Oui.
Rescue Me.
Et 911.
Okay. D'accord.
Et 911.
Et quel rapport avec
l'école? Non, parce qu'une école, on a la police évidemment. On a.
Non, mais il y a même eu des séries sur les femmes de ménage et des séries aussi sur les postiers. Voilà.
Ah ouais, sur les postiers.
Il y a pas sur les éboueurs.
Sur
les éboueurs.
Non, ça, c'est...
Chers
c'est
amis experts.
Ça, c'est les experts.
C'est les experts, ouais, ouais. Ben, si, les éboueurs, les flics, tu les vois souvent chercher dans les poubelles. Dans les experts, dans les experts, le dimanche, ils cherchaient dans les poubelles. Ouais, non, regarde, c'est là-bas, c'est l'autre côté, le flingue.
Et en même temps, c'est pas étonnant qu'ils fassent une série sur une école avec des étudiants un peu difficilement gérables, puisque sa femme, justement, avait joué dans le film C'est quoi, Esprit Rebelle ?
Esprit Rebelle, voilà.
Oui, qui l'a scénarisé.
Tout à fait. Donc Boston Public, hein, c'est la reprise, mais ça vaut le coup, hein, parce que c'est vraiment très très bien. Bon, en plus, c'est pas trop linéaire, quoi. Je veux dire, on peut très bien zapper un ou deux épisodes et tout, mais s'y retrouver quand même, hein, y a pas de problème, quoi. Alors, c'est sur France 4 du lundi au vendredi prochain, toute la semaine, tous les jours à partir de 18h15. Sinon, une petite curiosité, et là ben il va falloir veiller ou alors se lever super tôt sur Sci-Fi mardi prochain à 3h15 du matin.
Oh, les enfoirés.
Flash Gordon Conquers the Universe. Alors bon, c'est le Flash Gordon original, c'est-à-dire en noir et blanc.
Ah oui.
En version originale, normal, hein, parce que bon, à l'époque, on traduisait pas trop, et c'est interprété par Buster Crabbe, le mec qui s'est fait souffler le rôle de Tarzan par Johnny Weissmuller. Mais quand Johnny Weissmuller, il a commencé à déconner et puis à faire vraiment le con, c'est quand même Buster Crabbe qui après a repris le rôle de Tarzan,
hein, justice.
Et qui en a fait aussi petite tapée. Hein.
C'est Serial qui était déjà passé sur Cinéfix, si je me trompe.
Oui, tout à fait.
Puisqu'ils en avaient passé une petite tartignole. C'est assez amusant d'ailleurs de voir le look, le design quand même, puisque ça date de 39, je crois. C'est pas la vague de Serial qui a été fait dans les années 45 à 50.
Hein. Non, c'est avant la deuxième guerre. Hein. C'est dans les années 30. De toute façon, quoi.
Ah, désolé.
Alors, sinon, on a également la nouvelle saison de FBI Portée Disparue, Wizard of Trace, titre original, la saison 7 à partir de lundi sur France 2. Et avec un nouveau patron qui va arriver. Et si je vous dis Steven Weber, vous allez me dire ah ouais, pas mal. Ouais, franchement, ça peut être pas mal, ça peut le faire. Parce que la série commençait quand même à s'encrouter un petit peu, faut le dire.
Alors, réflexe qu'on a eu tout de suite, c'est qui
ce mec? Steven Weber.
Steven Weber, c'est le personnage.
Ah oui, Steven
Weber. Le héros principal de Jeffrey, le film.
Ah, Steven Weber, c'est celui qui jouait dans le téléfilm Shining.
Voilà, tout à fait, voilà. Qui reprend le rôle de Nicholson dans Shining. Voilà.
J'adore l'air, mais c'est quand même de JB qui dit putain, mais c'est quand même moi le pro dans l'affaire.
Non, moi les téléfilms.
Mais non, mais le problème, c'est que, et ça on le remarque depuis beaucoup d'années. Hein,
c'est que la VHS a disparu.
Non, c'est que il y a quand même, on a l'impression, bien qu'il y ait plus d'interpénétration depuis quelques années, on a quand même l'impression qu'il y a deux catégories d'acteurs et d'actrices. Les acteurs et les actrices qui vont faire toute une carrière à la télé, les acteurs et les actrices qui vont faire toute une carrière au cinéma, quelques-uns qui vont aller de l'un à l'autre pour des raisons plus ou moins financières et tout, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont jamais eu vraiment de chance au cinéma, mais qui sont tout aussi bons, sinon meilleurs, ou d'acteurs et d'actrices, que certains acteurs labellisés, on va dire même oscarisés, qu'on peut voir au cinéma et qui tiennent le dessus du pavé et qui en fait étranglent un petit peu le marché, hein, au niveau gueule nouvelle, quoi. Parce que bon, souvent, de temps en temps, tu te dis putain, encore c'est toujours la même tronche, on commence à en avoir un cul. Alors que dans la télé, eh bien, souvent, on arrive à mieux faire porter le jeu de l'acteur selon le personnage qu'il interprète, sans que ça nuise, si tu veux, quoi, à la crédibilité de l'histoire.
Pas vampirisé par le passé d'un non. grand acteur. Quoi.
Justement. Même quand il s'agit d'acteurs qui ont été super connus parce que ça avait été les acteurs d'un seul rôle dans une seule série. Bon, on arrive quand même à les retravailler un petit peu. Il n'y a qu'à voir le renouveau de Tom Selleck, quoi, oui, dans de nombreuses séries, alors qu'on se disait que ce mec-là allait être cramé, carbonisé, parce que son arrivée au cinéma s'était révélé un petit peu, on va dire, l'edge, hein, avec des films, on va oublier, hein, qui sont oubliables, on va dire, qui sont pas mauvais, mais qui sont oubliables. Mais Tom Selleck, ben, revient, quoi, avec Jess Stone, avec ses apparitions dans Vegas, dans Las Vegas, avec avec Friends, bien entendu, je vais pas toutes les citer, quoi, mais bon, on se rend compte que quand même, bon, bah, ok, quoi, la télé offre bien plus souvent bien la possibilité à un acteur gagner sa vie, de se relancer, ouais, tranquille, et un rythme de travail qui est un petit peu différent, quoi, on va dire, hein, très poussé pendant les tournages, mais après bon, bah, quand même de plus grosses périodes de repos, voilà, hein, pour la différence qu'il y a, ça on remarque
la différence, c'est les acteurs de cinéma qui se passent qui se font complètement exploser à la télévision. On a eu un exemple récent sur CBS,
ouais, et puis
Letterman, c'était assez pitoyable.
Il y a qu'à voir aussi les différents acteurs,
hein,
les différents acteurs.
Tu parles de Joaquin Phoenix là?
Ah oui, mais il l'a pas fait exprès, il était vraiment bourré au dernier.
Il y en a certains qui disent que il est en train de, ce sont des passages qui seront utilisés pour son prochain film, où il joue justement un gars qui un film second degré sur l'industrie des médias. Donc c'est pour
il y a peut-être un piège pour... alors.
Oui.
Parce que attends, t'as des réponses de Letterman, tu dis où ce mec est vraiment idiot, ou ce mec sait très bien ce qui se passe sur son plateau.
Oui, ça donnait l'impression dans ce sens-là, oui.
C'était, non, c'est, à mon avis, c'est du second degré, il y a quelque chose qui est calculé derrière, loin de là, quoi. On le saura si effectivement il y a un film ou pas, on verra dans quelques temps.
Donc voilà, puisque au bout d'un moment il parle de sa carrière de hip-hop, et s'il pouvait faire passer un extrait, Letterman qui disait non, mais c'est compromis dans cette émission. Voilà, c'était la dernière réplique.
On verra.
On verra.
Duce.
Oui.
On t'a coupé.
J'ai perdu le fil là, parce que je me suis lancé dans votre truc et tout, quoi.
Ah, tu nous expliquais, on devrait interrompre le Duce,
que la télévision permettait aux acteurs de cinéma de se relancer.
Ouais. Et maintenant, ce qu'on remarque, hein, aussi depuis plusieurs années, hein, c'est que bon, de grosses séries ont rehaussé le niveau de prestige de la télé, hein. Je veux parler des Sopranos, je veux parler
Oz,
peut-être pas tellement parce que ça s'adresse plus à un public spécifique, moins 16, bon, bah, ça limite quand même, mais bon, des séries comme Sopranos, on va dire, on va citer d'autres, des hauts de gamme, mais également dans des séries plus courtes, genre les séries humoristiques, hein, qui ont le format 25 minutes, comme Scrubs ou comme Earl, où les acteurs reconnus, hein, genre Bruce Willis, téléphone pour dire ouais, je pourrais pas avoir un petit rôle là, une petite apparition et tout, quoi, parce que elle est trop bonne, cette série là, il faut que j'y sois dedans là, hein, tu vois, c'est
oui,
pas possible.
En revanche, soyons honnêtes, la plupart quand même des acteurs qui viennent non pas du cinéma mais des séries, des téléfilms, ils sont extrêmement rares à ensuite, quand ils commencent un petit bout de carrière au cinéma, à perdurer et à s'en sortir au cinéma.
Ah, tout à fait.
La plupart, au contraire, ça fait un film, deux films, merci, au revoir.
Tout à fait. Mais c'est parce que justement la façon de travailler n'est pas la même. La façon de travailler propre de l'acteur, c'est-à-dire la façon dont il va travailler son rôle, n'est pas du tout la même pour un film que pour une série télé. Ou une série télé, on va délayer un petit peu, quoi, la personnalité du personnage. On a plus de temps, hein, sur une saison ou sur une demi-saison, hein, selon les tournages. Et l'acteur va plus se mettre dans son truc, dans la peau de son personnage.
Et puis les acteurs
que dans un film.
Et puis les acteurs de séries télé, pour percer au cinéma, ils passent d'abord par la case cinéma indépendant. Et ensuite, il faut tomber sur le rôle. Regarde Sarah Michelle Gellar qui elle, s'est contente, enfin, a été pas mal dans les films indépendants chez Richard Kelly et qui a été abonnée aussi aux films d'horreur, aux films de genre. Donc, il attend toujours le rôle en or dans un film de série A.
Ouais, mais le problème, c'est que, scénaristiquement parlant, on peut dire qu'à la télé, on a quand même plus de choses intéressantes qu'au cinéma.
Oui.
Hein, et que, justement, les acteurs et les actrices cherchent plus les rôles intéressants que les rôles qui sont purement alimentaires. Genre, pas mal de... Hugh Laurie en est le meilleur exemple. Hein, lui qui préfère, justement, le format de tournage de Dr. House. Je suis 4 mois à Los Angeles et le reste du temps, je suis en Angleterre et je suis avec ma famille et venez pas me faire chier. Et je vais passer mes vacances en France. Que d'ailleurs, vous commencez à m'emmerder, vous me reconnaissez dans la rue et tout, quoi, ça me plaît pas. Non, là, je plaisante. Mais des gens comme ça, quoi, se disent, ok, je fais un truc à la télé, mais je sais très bien que je vais avoir du mal à percer si j'ai envie de faire du cinéma aux États-Unis. De toute façon, pour Hugh Laurie, c'est un exemple un petit peu bâtard, on va dire, mais il est plus à l'aise, en fait, quand il va jouer dans un film en Angleterre, que s'il apparaissait dans un film aux États-Unis. Attention, je parle du Yuri, et il y a quand même un bémol, parce qu'il faut savoir que je vous avais parlé du Polar de l'été dernier.
De Joe Carnahan, oui.
De Joe Carnahan, non, c'était le Carnahan.
Carnahan, c'était Mise à Prix, tu parles ?
Non, pas Mise à Prix, Au cœur de la nuit.
Ah, qui n'est pas de Carnahan.
Avec Keanu Reeves.
Avec Keanu Reeves.
D'une
nouvelle de Elroy, où là, vraiment, il faisait très très fort. Bon, pas tellement éloigné de son personnage, d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil, hein, la rencontre se passe dans un hosto, ok, il y a des petits clins d'œil comme ça, mais là, il est également très très convaincant. Mais il reste quand même relativement proche, on va dire, hein, de son personnage de Dr. House.
T'as vu, maman, c'est Dr. Maison.
Voilà, donc pour ce petit aparté, on termine là, parce que putain, il est hyper tard. Hein.
13h42.
Ouais.
Oula.
Ouais. Eh oui.
Alors, on va faire dans le baston avec des films de guerre.
Ouais. Ah, enfin.
Des films de guerre à la télé. Avec ce soir sur Cinéma Frisson à 20h45, Opération Matchbox de Colin Teague, avec Laurence Fox, Louis Dempsey, Billy Zane et Michael Madsen. Sur Cinéma Classique ce soir également à 23h, Les Oies Sauvages d'Andrew McLaglen, ça c'est un classique quand même, hein, avec Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris, Hardy Kruger. Demain sur TF1 à 20h50, La Guerre des Mondes. Ah, il y a guerre dedans, alors je suis obligé.
Oui, c'est la version de Spielberg.
Ça, c'est la version
de Spielberg. C'est la version de Scientologie, pardon.
C'est la version de Spielberg, et il faut savoir, je l'ai pas noté, mais il y a également le téléfilm La Guerre des Mondes qui passe cette semaine, je sais plus sur quelle chaîne, sur AB1, et ce téléfilm a été tourné un an après la sortie de La Guerre des Mondes de Spielberg.
C'est un
MeToo. Ah, oui, d'accord.
Non, c'est un très récent aussi, quoi, mais je l'ai pas noté. Alors, demain soir, sur RTL9, la suite, hein, des Oies Sauvages, Les Loups de haute mer de Andrew McLaglen, tournée l'année suivante. Les Oies Sauvages datent de 78, Les Loups de haute mer de 79. Il a gardé Roger Moore pour remplacer Richard Burton, il a pris James Mason, et pour remplacer Richard Harris, non, c'est pas vrai. On peut pas remplacer Richard Harris par Anthony Perkins. C'est pas possible. Mais il y a Michael Parks également, donc, dans ce film Les Loups de haute mer. Et demain également, alors là c'est un gros classique du film de guerre, et c'est vachement mieux que celui de Michael Bay. C'est sur Direct 8 à 20h40, c'est Tora Tora Tora, l'attaque de Pearl Harbor, avec Martin Balsam et plein d'acteurs japonais. Je vous ai pas noté, mais par contre faut savoir que c'était une coproduction à l'époque, hein, le film a été tourné en 70, et donc coproduction américano-nippone, c'est pour resserrer un peu les liens et tout, quoi. Regardez, on filme ce que nous avons fait, mais bon, on est quand même pas...
C'était très loin d'être fréquent, hein, à l'époque.
Ah oui. Et donc trois réalisateurs pour ce film: Richard Fleischer, Kinji Fukasaku,
oui,
et Toshio Masuda, voilà, hein, rien que ça, quoi, tu vois. Et le film est bien, franchement, le film est... Enfin, moi, je préfère le Tora 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 au Pearl Harbor de Michael Bay.
Ah, mais t'as même pas besoin de le dire, c'est... tu gaspilles ta salive, là.
Il vaut mieux.
Il y en a qu'un des deux qui est connu, hein, avec le temps. Hein. Le Tora Tora Tora, c'est clair que, même si on l'a pas vu, tu connais ce titre-là.
Ah bah oui, bon, bah...
L'autre, franchement, lequel pays? Ah oui, lequel? Ah oui, c'est vrai, effectivement. Bon.
Alors, lundi, sur France 3, Wind Talkers de John Woo à 23h. Hein, c'est la nouvelle tranche cinéma de France 3 hein, qui diffuse des films le samedi soir. On avait parlé la dernière fois.
Juste un truc, en allant voir LOL, ça y est, les premiers posters des Trois Royaumes sont déjà disponibles.
Ah,
nouveau John Woo.
Alors justement, Wind Talkers avec Nick Cage et Adam Beach. Oui. On parlait de New York 911. Bah ouais, Adam Beach, hein, hein, c'est l'un des pompiers, quoi, justement, quoi. On a également lundi sur Arte à 20h45 la Chambre des officiers de François Dupeyron avec Eric Caravaca, oui. Podalides, Dussolier, Azéma. C'est pas mal, c'est vraiment bien. Hein, c'est pas vraiment un film de guerre hein, parce qu'il y a pas tellement de baston, hein, mais c'est quand même
sur
les conséquences de la guerre. Lundi également sur Energy 12, la soirée spéciale baston à font les manettes avec à 20h35 un film dispensable de Ridley Scott à armes égales.
Oh là là,
oh là, là.
Demi Moore, Viggo Mortensen, mais bon, il y a Viggo Mortensen et Daniel Van Bargen, donc là on peut se dire que c'est pas mal et tout quoi. Tu sais qui c'est Daniel Van Bargen?
Non
pas du tout.
Ah bah si, c'est une des tronches que tu vois, tu te dis ouais je connais cette tronche, mais tu arrives jamais à foutre un nom dessus. Je peux vous dire que c'est quand même le chef de l'académie militaire qui accueille le fils aîné de la famille de Malcolm dans la première et la deuxième saison. Donc c'est pas piqué des hannetons.
Souvenez-vous.
Oui. Donc armes égales, suivi de à 20h40 de Rambo 3 de Peter MacDonald en 88 avec dans le rôle des méchants. Tu l'as failli le dire.
Max von Sydow.
Non.
Ah, mais
Marc de Jonge,
oui, voilà.
Et Kurtwood Smith. Ah oui, eh oui. Et sur Cinéfix lundi également à 21h, Abattoir 5 de George Royle en 72 avec Michael Sacks et Ron Limbaum. Alors, Abattoir 5 n'est pas vraiment un film sur la guerre. C'est tiré d'un roman de Kurt Vonnegut qui raconte l'histoire d'un soldat qui revient de un soldat américain qui a fait la libération de l'Europe, donc qui a fait le débarquement puis la France, puis qui est allé en Allemagne justement quoi, qui a découvert les charniers des camps de concentration et tout, et qui ensuite revient je crois que c'est à Chicago me semble-t-il, dans une grande métropole américaine après la guerre. Donc, et le problème c'est que bon, on commence à avoir des hallucinations graves, très sérieuses quoi, mais qui vont faire partir dans un monde mais carrément imaginaire et hautement hallucinatoire, on va dire. Abattoir 5, c'est vraiment excellent comme film. C'est pas vraiment un film de guerre, hein, c'est plus un film de science-fiction, on va dire. Mais là, c'est vraiment excellent, très 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 bon, très bon film. Vraiment, Abattoir 5. Donc c'est sur Cinéfix lundi prochain à 21h. Mardi sur NT1 à 20h35. Alors celui-là, jamais réussi. Pourtant, il est diffusé, rediffusé à fond les mains. Jamais réussi à le voir du début jusqu'à la fin. Oui. De temps en temps, je chope des petits passages comme ça. Tu vois, je zappe 5 minutes. Je me dis, ouais, d'accord.
Pourquoi il est long ou...
Non, c'est une grosse bouse quoi. Nuclear Target de Marcus Adams avec Wesley Snipes et Emma Sams. Il faut dire que Wesley Snipes, bon, c'est très difficile de trouver un film qui a moins de 15 ans et dans lequel il est bien.
Les deux premiers Blade.
Les Blade, ouais, bon, exception faite de Blade.
Demolition Man.
Le cinquième élément.
Moins de 15 ans.
Moins de 15 ans, j'ai dit.
Il joue pas dedans, cinquième élément.
Ah merde.
Moins de 15 ans.
Non, c'est tricky.
Demolition Man, 94, je crois.
Ouais.
Voilà, 15 ans.
Ah merde. Ah ouais, putain, déjà. Ah putain, le goût de vieux, là.
Alors, mardi prochain, sur NT1, après Nuclear Target, avec Wesley Snipes, on a Opération Delta Force, de Yossi Vine, avec Michael McGrady et Simon Jones.
Ouais.
Laisse tomber. Mercredi, sur Arte, à 23h15, Frères de Sang, un film coréen de Kang Ye-gyu.
C'est très bien, ça.
Avec Yang Dong-gun, Won Bin et Choi Ming-sing. Ah putain, j'ai réussi à tous les dire sans...
C'est bien.
Yes.
Pas mal, hein. Qui raconte l'histoire de des Coréens au début de la guerre de Corée, tu vois. Alors bon, c'est bien parce que c'est vu de l'autre côté, quoi. Parce que généralement, de la guerre de Corée, ce qu'on sait, c'est que ce que les Américains y ont fait, quoi, au travers des différents films qu'ils y ont pu y tourner, et à travers toutes les références qui font, qui parlent des vétérans de la guerre. Alors maintenant, c'est le Vietnam, mais avant, il y avait les vétérans de la guerre de Corée, avant qu'il y ait le Vietnam, tu vois. Orange Cinémax vous passe un film très récent, 2007, Dans la vallée d'Ella de Paul Haggis. Avec Tommy Jones, Susan Sarandon, j'en passais des meilleurs. C'est à 20h40, c'est mercredi prochain. Là, c'est du très récent, hein, parce que bon, ça raconte l'invasion américaine en Irak. Et bon, ça cartonne pas mal. Jeudi sur Arte à 20h45, Le Crépuscule des Aigles de Guillermin avec Georges Peppard, James Mason, Ursula Andress. Ouais, excellent. Et sur Sci-Fi en même temps à 20h45 jeudi prochain, SS Doom Trooper de Damian Flores avec Corinne Nemec. Alors bon, c'est parce qu'il y a Corinne Nemec dedans, hein,
Parker Lewis.
Eh ouais. Et Ben Cross. Alors là, on se demande qui vient foutre dans un truc pareil, quoi. Parce que bon, bah, je vous lis même pas le pitch tellement ça a l'air naze, quoi.
Si, vas-y.
Non, c'est.
si.
Je l'ai pas noté, tu vois.
Ah merde.
C'est pas la peine, c'est. Non, laisse tomber, quoi.
Attends, un titre comme ça, moi, je kiffe.
Ah ouais, ça donne la bave aux lèvres, là.
Ah ouais, non, ça se passe sur un vaisseau de guerre, quoi. Sur TCM également à 20h45, The Deer Hunter. Là, c'est le gros
voyage
de Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale et tous les autres. Et on termine avec vendredi sur Ciné Cinéma Classique à 20h45. C'est une curiosité, c'est plus un document qu'un vrai film. Ça s'appelle Le Lion à des ailes avec Merle Oberon et Ralph Richardson. Donc comme ça, ça vous situe l'époque. Ouais. Avant 39, hein, c'est un film qui a été fait en 39. Conjointement, c'est un film anglais, conjointement par Michael Powell, Desmond Hurt et Alexander Korda, et qui est un film qui dit tout dans le titre, en fait, hein, Le Lion a des ailes, par rapport à ce qui va se passer juste après, c'est-à-dire en 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film anglais sur le drapeau, pas sur le drapeau, mais enfin
non,
sur les armoiries,
sur les cuissons.
C'est un lion, on se rappelle la bataille d'Angleterre, hein, la Royal Air Force, donc le Lion à des ailes. Ça va nous raconter un petit peu comment vont se motiver les Anglais à l'approche de ce qu'ils se disent que ça va peut-être être une guerre très prochaine et qu'il vaudrait mieux se renforcer un petit peu, parce que de l'autre côté, là-bas, en Allemagne, il y a un type qui s'appelle Adolf, là, qui est en train de foutre un petit peu le dawa, qu'on sait pas ce que ça va donner. Et donc, bah, ça raconte un petit peu bien ce que vont faire les Anglais en préparation, hein, au départ, quoi, en se disant que peut-être on ferait bien de se renforcer un petit peu, parce qu'on sait jamais ce qui peut passer par la tête de d'autres tarés de l'autre côté là-bas en Allemagne. Le Lion des ailes sur Ciné Cinéma Classique vendredi prochain à 20h45.
Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission pour le routin?
Oui, c'était une émission spéciale Tue l'amour avec une interview de Milo Manara, un comic box invité surprise, Watchmen, plus notre comic box avec Captain America, un 70-naire, on a eu un Captain America qui revenir, du sponsoring MSN pour ado de la baston sauvage, qui n'est pas Tue l'amour finalement, Cameron de Doctor House, c'était blonde ou brune de la série avec des mecs qui fouillent les poubelles, on a eu une digression sur les acteurs de télé au cinéma, et un sans faute de du sport dans la prononciation des noms coréens.
Yes. Non un préservatif gouffresse chimique dans le fion de Himmler. Ils ont manqué tout ça.
C'est quoi ce truc?
Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. Et excusez-moi, je reprends mes esprits, et aussi retrouver les chroniques écrites dans Tu te tais, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr ou d'aller à la boulangerie qui se trouve dans le quartier de Faubourg Bonnefoy. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Tamara Drewe, DMZ.
Tamara Drew,
excusez-moi, je connais pas. Bref, du grand écart.
DMZ.
Demilitary Zone.
Et on aura de la parodie de Saint Seiya avec les chevaliers de l'horoscope.
Yes. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même et en même fréquence. See you then.
Oui, parce que du sport est en train de venir. Oui, le CD des crampes, il est là. Ciao, bye bye. See you.
Ciao.
Salut.
On vous laisse avec Duce.